On est caféiné à fond, il est 17h13. C'est la matinée Étienne. Non, pas du tout, c'est pas la matinée Étienne. C'est... Du coup, j'ai rebaptisé l'émission, c'est la fin de journée Étienne. C'est très perturbant. Je l'ai lu dans le chat. Hein, c'est très. C'est, hein, c'est, on est, c'est quoi cet horaire, me dit Trattoria Casa. L'horaire me perturbe. Hein, le mot est lâché. Kono a Malik. Voilà. Ouais, je sais, ouais. En fait, ce matin, je vous raconte ma vie passionnante. Le réveil a sonné à 5h. On commence à lire le journaux tranquillement et tout. Mais mon petit Malo. Mon grand, l'aîné, c'est quoi cette coiffure? Attends, j'ai de plus en plus de cheveux, c'est fou ça. J'ai un copain jardinier qui m'a filé. C'est de l'engrais, c'est un truc qu'ils mettent plus dans les jardins publics, c'est interdit maintenant parce que c'est trop fort. C'est interdit, mais du coup, il a un stock, il m'en file pour mes cheveux. Eh, ça marche. Et donc, mon petit Malo, il avait mal au ventre ce matin. Je sais pas ce qu'il avait là. Et vraiment pas bien, quoi. Et donc, du coup, je suis retourné au lit. Après avoir lu les journaux avec lui, parce que ça allait pas, et donc ça, voilà, ça l'a apaisé, il s'est endormi. Du coup, ben voilà, j'ai laissé passer la fenêtre de tir pour la matinée de ce matin, et puis ça allait. Alors rassurez-vous, ça allait mieux. Hein. Mais c'est marrant parce qu'il a mal le ventre le soir en ce moment, la nuit, et pas le matin. Bon, un peu bizarre. Bref, ça allait mieux, mais les journaux étaient lus. Après, j'ai enchaîné les rendez-vous, notamment un très sympathique moment avec un journaliste de Télérama. Pour parler de Twitch, avec une interview qui sera publiée en fin de semaine, là. Donc ça, c'était cool, parce que Télérama, c'est un hebdomadaire que j'aime beaucoup, auquel j'étais abonné même dans ma jeunesse, à l'époque où j'avais le temps de regarder la télévision et d'aller au cinéma. Et voilà, j'ai fait tout ça, et puis je me suis dit, bon, bah, hey, on va ce mardi, on va streamer, quoi. Donc, bah, du coup, moi, je me suis dit, on va faire une, non pas une matinée Étienne, non pas une soirée Étienne, ça c'est à partir de 20h, on va dire, Mais une fin de journée Étienne. Voilà, j'ai baptisé ça comme ça, très original. Voilà. Donc on va lire les journaux de ce matin, et puis j'ai lu la dernière édition du Monde qui est sortie cet après-midi, donc on est bien, on est bien, on est bien. Voilà. Puis il y avait des actus aussi que voilà, je me serais voulu de ne pas les partager avec vous, sachant qu'on va y revenir sûrement dans l'hebdo Étienne, hein, numéro 2, le numéro 2 de la saison numéro 2. Je suis content parce que les 4 invités sont calés pour l'hebdo Étienne de vendredi là, j'ai trouvé mon quatrième invité ce matin. Pas facile de caler quatre invités tous les vendredis quoi. Donc c'est trouvé, je suis assez content de la line-up. Si vous êtes gentil, il y a Julo qui demandait un leak là. Si vous êtes gentil, si je vous les donnerai au cours de l'émission, sachant que ce soir je vais bosser sur le visuel et que je le publierai demain quoi, demain mercredi, ouais, deux jours avant c'est bien. Merci Zpic pour le quatrième mois d'abonnement. Bravo pour les investissements dans la chaîne, ça me plaît ultra quali. Ah merci, c'est gentil. Ouais, on va encore régler ça, mais c'est vrai qu'on a un peu estimé sur le matos. Je trouvais que la lumière est encore un peu rouge, mais ouais, je suis content. Norage, merci pour le 8e mois d'abonnement. Bourzouf pour le 11e mois d'abonnement. Ton message est trop gentil, je ne mérite pas ça. 206e, merci pour le 21e mois. Aokayas, on va parler d'Abaya dans un instant, ça n'a rien à voir, mais ça m'y fait penser. Merci pour le 14e mois d'abonnement. Un petit coucou et puis la sieste, mais t'as tellement raison, c'est tellement bon pour la santé la sieste, très important. David, merci pour le message à l'instant dans le chat. Rhapsody in Blue pour le 24e mois d'abonnement, 2 ans, putain 2 ans, j'ai la ref. Rosane, merci pour le 17e mois. Robespierre AEG est avec nous, il vient de lâcher son sub. Samou Saston, merci pour le Prime. Kenny Stream, Epolisson, Le Taulier, LDMODL, 0 biceps, XT77, Haiku, Alex Badgone, Chimex, Shadowwings, Soukiye, Alestizer. Je suis allé lire les subs que les gens ont pris entre les deux streams. Quand même, il y a des gens très gentiment qui subent entre deux streams. Bon, je les remercie quoi. South Massalia, on est écouté de Marseille, je dis pas de bêtises. Merci à l'instant pour le Prime. Camille Notagirl pour les Beats. Cam Debo pour le 5e mois d'abonnement. Haha. J'aime ce genre de message. Voilà. Vous savez, c'est tout le sel de Twitch. C'est l'un des trucs sympas par rapport aux médias traditionnels, où on n'échange pas comme ça avec les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs. C'est un message comme celui de Camille Dundin à l'instant. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde, merci d'accompagner ma fin de gueule de bois, c'est très agréable. Il est 17h, t'as pris cher quand même. Rouliab, merci pour ce quatrième mois d'abonnement. Bonjour Alexandra, merci d'être avec nous. C'est pour faire un live react à question pour un champion, cet horaire tardif, me dit Damatut. Non, non, non. Les lives react de questions pour un champion, c'est pour la mi-étoile, c'est pour Rayou. What? What? Rhapsody in Blue? What? Il y a Rhapsody in Blue qui vient là. What? De lâcher 20 abonnements à la communauté. Waouh! Pour me remercier de faire un stream tardif, c'est adorable. VDMJM, merci pour le quatrième mois d'abonnement. VDM, c'est vie de merde, non? C'est pas ça? VDMJM. En tout cas, merci. Rouliab, merci pour le quatrième mois. Rhapsody, merci beaucoup. Oui, non, non, les réacts de questions pour un champion, c'est pour Ayou, on touche pas, hein? C'est la nuit de la culte. Hein. C'est la nuit de la culte. Hein. Voilà. Sachant que je reprends demain les enregistrements de questions pour un champion de la. Écoutez bien, c'est fou, c'est insane. De la 8e saison de Papy Sam, ma question pour un champion. Je débute ma 8e saison quand même, hein? Voilà. Et donc bah, on reprend demain là, plein d'énergie, plein d'envie, on va se régaler. Cette émission qui a plus de 30 ans hein, qui est née en 1988, on essaie de l'améliorer à chaque session, voilà, trouver des petits trucs d'animation, de dynamisme, de voilà, de légèreté, de fraîcheur, de musique, de d'actualisation des questions, voilà, une émission malgré son âge moderne dans son temps, voilà. Les candidats nous aident beaucoup à cette ambiance. On va se régaler. Nouvel horaire à partir de lundi prochain d'ailleurs. 18h10. On était à 17h45. Et on passe à 18h10, qui est en fait notre ancien horaire. Mais de temps en temps, une émission, bah, c'est comme un être humain, ça bouge un petit peu. Donc on revient à 18h10, qui est un horaire très intéressant parce qu'il est, comme c'est un peu plus tard, c'est 25 minutes après, on peut toucher plus facilement des gens qui étaient au travail. Et donc, ça, il peut y avoir plus de monde. Ça, c'est cool quoi. Allez, je vous lis un petit peu. Pas de revue de presse pendant combien de jours, demande Mademoiselle Bébé. Ça c'est une très bonne question, puisque les habitués le savent, quand il y a question pour un champion, il n'y a pas de revue de presse. Mais je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si l'organisation de la journée, si l'énergie, la fatigue, la volonté d'être aussi, de passer du temps avec ma famille va le permettre, mais je vais essayer. Je ne sais pas si, du tout si je vais réussir, de les jours où je fais question, de streamer l'actu le soir. Donc les journaux du matin, je les lis, je les mets de côté, je lis Le Monde l'après-midi, je suis l'actu et on fait un stream le soir. Est-ce que ça passe en termes d'emploi du temps, d'énergie, de santé, de vie familiale? On va voir, mais je vais essayer ça. Voilà. Pour être plus présent encore que je l'étais, quelqu'un vient de me dire que Rayou Étoile vient de passer les 1 million de followers sur Twitch. Alors je l'ai vu ça, sur Twitter, il a posté effectivement un tweet où on voyait qu'il était tout prêt. Donc on va aller fêter ça avec lui, on va aller voir sa chaîne Étoile. 1 million de followers. Ouais, regardez. Eh oui, c'est officiel. C'est officiel. C'est beau. C'est là. Toum, 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 toum. Ici, là. Hop, là, là, là. Un. Mais lui aussi, il met du rock. Rock, non. Plutôt pas un peu ambiance jeu vidéo là. Très étonnant ça. 1 million de followers. Et vous savez quoi? C'est ultra mérité. Cet homme en mérite bien plus encore quoi. Voilà. Cet homme qui nous a fait la gentillesse d'inaugurer la saison 1 de Sam Plaît dimanche dernier. C'est en replay gratuitement sur YouTube. C'est en replay sur Twitch pour les abonnés. Sam Plaît. Premier numéro avec Rayou sur évidemment Super Smash Bros Ultimate. Voilà, c'était dimanche. Tout ça est en replay. On s'est régalé. C'était top. Et tous les dimanches 20h, on sera avec une passionnée d'un jeu vidéo pour s'immerger dans un jeu vidéo. On va se régaler. Rayou, 1 million de followers, c'est top. Et Tourtemiel, tu as raison. Rayou qui nous emmène jeudi. Hein, c'est la nuit au musée. Un autre de ses excellents rendez-vous au Palais Garnier avec Zerator, je crois. Jeudi soir, votre soirée, c'est Étoile, c'est la nuit au musée, c'est au Palais Garnier, ça va être magnifique, avec Zerator, ça va être super. Voilà. Donc, je suis bien content pour lui. Allez, je vous lis un petit peu, et puis on va faire un petit sommaire, une petite revue de presse express, pour vous donner l'essentiel de l'actualité du jour en 5 minutes. Puis après, on prendra le temps de lire tout ça. Quoi. Beaucoup parlé de, vous savez, de l'interdiction de l'abaya à l'école, on en a déjà parlé lundi puisque l'annonce a été faite dimanche par le ministre de l'Éducation, mais tous vos journaux ils reviennent ce matin avec des éclairages, des explications, le pourquoi, le comment, qui est pour, qui est contre, etc. Donc pour mettre un peu plus de sens derrière cette actu, à mon avis on y reviendra dans l'hebdo Étienne, vendredi soir aussi. Alors, je lis. Oui, en fait, oui, chien GPT, oui. Je suis d'accord avec toi sur l'interview de France Inter hier. Bon, ça arrive. Rentrée, nouveauté, voilà, faut. Voilà. Mais bon, j'étais content. J'adore, moi, là, j'adore la radio. C'est un média magique. Donc, toujours content d'être invité. Bonne question de Bachou. Est-ce que le fait de ne plus être dans une rédaction joue sur la qualité de ta revue de presse? En fait, je passe l'essentiel de ma journée à lire des actus. Et a priori de m'informer auprès de sources de qualité. Je le faisais avant, je continue à le faire. Donc non, j'essaie d'être autant sur la brèche de l'actu qu'avant. Voilà, donc ça change rien en fait. Même si je adorais bosser à France Info, mais que les horaires, une espèce de fatigue s'était installée. Donc le réveil à 2h du matin, c'est fini. Mais l'actu, non, c'est pas fini. Votre story est en cours d'importation. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, j'ai cassé. J'ai encore fait une connerie. Des trucs qui apparaissent sur mon téléphone, je ne sais pas ce que c'est. Chazamalo, bonjour Samuel, ça faisait longtemps. Oui, je me demandais justement où tu étais passé. Combien d'émissions tournées par jour? On tourne 6 émissions en moyenne par jour de questions pour un champion. Ouais. Donc suspense, hein, demain soir. Est-ce qu'il y aura une soirée Étienne sur l'actu ou pas? Voilà, on verra. La question qui fâche du coup à France Inter, remake hier soir, c'était: est-ce que les jeunes sont des gros boomers? Bon, c'était un peu comment dire, C'est histoire de faire une espèce de provocation dans la question. En fait, la vraie question, c'est est-ce que les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire déjà, s'informent différemment? Voilà, bon, du coup, comme je suis un peu sur Twitch, ils m'ont demandé. Voilà. Alors je vous lis déjà vos commentaires, vos réflexions sur l'abaya, hein, comme celui de Sid Pagru. Un énième débat sur le voile, comme chaque année. Tous les médias mordent à l'hameçon, comme d'hab. Alors ça, c'est l'analyse de la France Insoumise, par exemple. C'est exactement... alors sans l'accusation sur les médias, mais le côté... c'est pas ça qui est important. À l'école, on devrait plutôt s'intéresser à autre chose. Et c'est plutôt une espèce de manip politique et un clin d'œil à l'extrême droite et à ses électeurs, hein. Donc si c'est pas gru, je pense que tu es sur cette longueur d'onde, qui en soi n'est pas forcément une mauvaise analyse d'ailleurs. En tout cas, c'est celle aujourd'hui de la France insoumise et des écologistes. On le verra dans un papier qui nous décrit justement les positions des différentes forces politiques par rapport à cet abaya. Et par exemple, c'est pas la lecture à gauche des socialistes et des communistes qui, eux, valident cette interdiction de l'abaya, puisque même au sein de la gauche, on est divisé sur cette question. Donc, ton analyse n'est pas inintéressante. Elle est même portée par certains partis politiques. Mais ça n'est pas l'avis de tout le monde. Certains estiment qu'il y avait un vrai problème autour de la multiplication du port de l'abaya, qui, pour certains, hein, voilà, c'était tout le débat, n'est pas qu'un vêtement, mais aussi un signe extérieur religieux. On va avoir cette réflexion, ce débat, dans un instant. Bon, on va le faire maintenant. Là. Allez, je lis encore deux messages. Voilà, 17 minutes d'intro, on est bien. Tiens, tu vois, ça c'est un truc que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est vrai que les directeurs d'établissements concernés, parce que toutes les écoles n'étaient pas concernées par ça, et toutes les villes n'étaient pas concernées par ça, on le dira aussi, mais les directeurs d'école concernés, les proviseurs, étaient demandeurs d'une règle claire, puisque jusqu'ici c'était à eux de décider si l'abaya était interdite ou autorisée. Donc, ce qui n'est pas très agréable, parce que du coup, vous aviez des jeunes filles qui allaient voir un directeur où c'était interdit en disant bah, « Dans l'établissement là-bas, c'est autorisé, c'est quoi cette histoire ?» Donc, c'est très compliqué pour eux. Et puis, c'est pas au directeur d'établissement de porter ce genre de responsabilité. Donc là, il y a une règle au niveau national. Et du coup, qu'il y ait une règle au niveau national, c'est vrai que pour certains directeurs d'établissement, c'est bien. Et Oshagan écrit « J'ai enseigné l'an dernier dans un des lycées les plus concernés par cette polémique. » C'était très tendu et une décision claire sur le sujet est en tout cas indispensable. Voilà. On va évoquer ce sujet dans un instant. Je suis d'accord. Il y a Chien GPT qui écrit comme quoi Boomer, c'est plus un état d'esprit, l'ouverture en l'occurrence, qu'un âge à proprement parler. C'est exactement là ce que j'ai dit hier soir. À un moment, on parlait des boomers. J'ai dit, mais c'est quoi les boomers en fait? Et j'ai dit, c'est mon avis, que même chez les jeunes, il y a des jeunes qui s'interpellent entre eux en se traitant respectivement de boomers. Quand, selon certains jeunes, un jeune n'est pas assez ouvert, n'est pas assez à la page, n'est pas assez, etc. Quoi. Donc on est toujours le boomer de quelqu'un d'autre. Et je crois que, effectivement, être un boomer, il y a une définition très, très stricte hein, des boomers. Normalement, les boomers, les enfants du baby boom, sont les gens qui sont nés entre 1946 et 1964, je crois. On pourra vérifier. Voilà, ça, c'est la définition, on va dire, sociologique. Donc à proprement parler, je ne suis pas un boomer parce que je suis né en 71. Après, évidemment, le sens général de boomer, c'est autre chose. Mais moi, je crois que c'est plus un état d'esprit, effectivement. En tout cas, je vois que ça vous inspire ce débat sur la baïa. Je vois plein de réactions. Bon, ça tombe bien. C'est un peu pour ça que j'ai lancé ce stream, parce que je trouvais que c'était pas cool de passer à côté de cette actu hein, ici. Et force au modo, d'ailleurs, je remercie Francis, Julo18, Crimsonk et l'ami Nightbot qui sont avec nous. Ici, on évoque tous les sujets d'actu, même ceux qui divisent, même ceux qui créent des polémiques, parce qu'on a réussi à créer un cadre où les gens arrivent, vous, à échanger de façon chill, tranquille, même sur les sujets les plus compliqués, voilà, donc bravo à vous, et un sujet comme celui-ci, bah, il faut l'aborder, voilà, il faut l'aborder, et donc ça m'aurait saoulé de passer à côté de ce stream, quoi. Yosley, merci pour ce prime que tu as lâché, merci pour ton soutien, voilà, allez, je lis encore 20 minutes d'intro, on va y aller, On va faire la petite revue de presse express. Voilà. Alors le débat, c'est voilà, est-ce que c'est un vêtement, est-ce que c'est un signe distinctif religieux? Certains disent oui. Est-ce que c'est juste un vêtement? Certains disent non, comme Louési qui dit c'est pas un vêtement religieux, c'est juste un mot pour dire robe longue. Et certains disent oui, mais il y a aussi l'intention. Quelle est l'intention des jeunes filles, femmes qui portent ce vêtement à l'école? Quelle est l'intention? Et si on va plus loin, quelle est l'intention de ceux qui, notamment sur les réseaux sociaux, incite ces jeunes femmes à porter la baïa. Voilà, c'est un sujet complexe. Mais on est là pour aborder les sujets complexes. Bon, moi, je crois que vous avez envie de parler de ça. Alors, on y va. Ok, mes amis, merci d'être avec moi en cet horaire un peu étrange. Ce n'est pas une matinée Étienne, ce n'est pas une soirée Étienne, c'est une fin de journée Étienne. On est ensemble jusqu'à, je sais pas moi, 19h30 quoi, on va dire. Hein. 19h30, 20h, je vous lâche pour le dîner, tranquillou. Alors, petit sommaire, petite revue de presse express pour ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures avec nous pour avoir l'essentiel de l'actu. Donc, comme je vous le disais, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais absolument faire ce stream, l'abaya, le débat sur l'interdiction de l'abaya à l'école, qui a été annoncé dimanche par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, est vachement présent dans vos journaux. Ici, c'est un article du Monde. Le port de l'abaya, revient un petit article. Le port de l'abaya à l'école va être interdit. Voilà, donc on verra une définition justement de l'abaya par le Monde. Papier dans Libération, dans les collèges et lycées, une frontière ténue. Qu'est-ce qu'exactement une abaya? Parfois, la frontière est pas très large entre une abaya et une robe longue couvrante. Voilà. Donc comment vont faire les établissements scolaires pour distinguer ce qu'est exactement une abaya? Bon, Libération pose la question. Et puis Libération se penche aussi sur la division à gauche de cette question, parce que vous avez une partie de la gauche qui dit bravo, bonne décision, c'est important, faut faire ça. Et une partie de la gauche qui dit mais laissez les jeunes femmes tranquilles, lâchez-leur la grappe, il y a quand même beaucoup plus urgent à l'école. Mathéus Neuf, un autre passionné d'actualité, qui, je crois, stream depuis la Belgique, si je ne dis pas de bêtises, vient de nous raid. Merci beaucoup pour ton raid et ton soutien. On vient de commencer cette revue de presse de fin de journée. Merci Mathéus Neuf et merci Petit Lucky à l'instant pour le 9e mois d'abonnement. Merci à toi. Donc on se penchera sur la division de la gauche là-dessus. Et on donnera la parole à une chercheuse, une spécialiste de l'islam, qui est dans le Figaro, qui dit pourquoi, selon elle, eh bien c'est une bonne décision d'interdire l'abaya, en disant ça n'est pas qu'un vêtement, c'est aussi une intention, notamment l'intention de certains prédicateurs islamistes en France. Et elle nous explique donc que le port de l'abaya, c'est une conséquence de la surenchère des prédicateurs islamistes en France. Donc on se penchera sur cette analyse. Alors, je suis content de trouver cet article dans Le Parisien aussi. Je tiens, GPT, bonne journée à toi, sur cette initiative politique d'ampleur. Ce sont des guillemets, parce que le président Macron qui avait dit ça au début de l'été, hein, le président Macron avait annoncé pour la fin de l'été une initiative politique d'ampleur. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, maintenant, on sait ce que c'est. C'est demain, c'est à 15h, ça va être l'après-midi, jusqu'en début de soirée, il y aura un dîner. C'est quoi? C'est le président Macron qui réunit autour de lui tous les dirigeants des principaux partis politiques. De la gauche à la droite, en passant par l'extrême droite, etc. A priori, on verra, tout le monde a accepté. Quel est l'objectif? Ben, je vais vous raconter ça. Est-ce que ça va marcher? On verra. Voilà. Certains sont assez pessimistes. Voilà. Mais c'est bien parce que ça nous fait nous projeter un petit peu sur ce qui va se passer demain. Pour moi, c'est une des grosses actus de demain, ça. Alexia, je remercie beaucoup pour le 14e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. Les Américains, certains Américains, commencent à avoir des doutes sur la guerre en Ukraine. Voilà. Ça, c'est un dossier dans le Figaro. Alors, au sein de l'armée, chez les Républicains, notamment les candidats à la primaire républicaine, vous savez qu'il y a une élection qui approche aux États-Unis, et une partie de l'opinion publique, et notamment chez les partisans des Républicains, eh bien, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en disant c'est long, c'est cher. Mais aussi, je vous donne juste un chiffre pour ceux qui ne seront pas là tout à l'heure, les États-Unis ont dépensé, a priori, depuis le début de la guerre, en Ukraine, 113 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, soit $900 par foyer américain, donc ça n'est pas rien. On se penchera là-dessus. Alors ça, c'est... Il y a des jours comme ça où dans un journal, il y a un papier, il y a un reportage très très fort. Ça, c'est la Une de Libération, dans l'enfer des gangs. On est en Haïti. L'envoyé spécial de Libération en Haïti a constaté que la passe était totalement... C'est insane, c'est la folie. Le pays, et notamment la capitale Port-au-Prince, est totalement livré aux gangs qui notamment enlèvent des gens contre des rançons. On est dans l'ultra-violence, il y a des quartiers entiers qui sont mis à sac, qui sont incendiés parfois. Voilà. Les patrons, ce sont les gangs, voilà. La police n'y peut plus rien. Donc le reportage est assez fou. Et on apprend grâce à Libération que Haïti en appelle à la communauté internationale. Voilà. Et notamment à l'ONU pour envoyer une force internationale pour aider la police haïtienne à se sortir de cette situation. Voilà. Donc on se penchera là-dessus. Un reportage très 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 fort dans Libération. Mister Yugis, merci pour le 6e mois d'abonnement. NZZ, merci pour le Prime. C'est Étoile qui m'a parlé d'une histoire de Zizi, là, de Go Zizi, là, c'est ça ? Qui avait été lâché lors d'une compétition de Smash, c'est ça ? C'est Gozizi, c'est ça ? C'est ça qu'il faut que je dise maintenant. Gozizi, il faut avoir la ref. C'est ça, c'est Gozizi. C'est pointu, hein. C'est un truc de gamer. Ça me fait rire. Steve Walks, merci pour le 9e mois d'abonnement et pour le gentil message. Poetus, merci pour le 9e mois d'abonnement. Ça nous fait un petit bébé. Quelle heure est-il ? Il est 17h36. Voilà. Une histoire de Zizi, une histoire de jeux vidéo surtout. Donc, ça c'est Libération, et dans le monde et dans l'humanité, des papiers sur la crise du logement étudiant. Alors vous allez me dire, si vous suivez un petit peu l'actualité, le trop peu, trop cher, c'est à chaque rentrée. Hein. Qu'il n'y ait pas assez de logements pour les étudiants en France, moi je crois qu'un de mes premiers papiers de journaliste il y a 30 ans, c'était ça déjà. Sauf que c'est encore plus grave qu'avant, nous disent Le Monde, hop, et l'humanité, voilà, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Et que là, en ce moment, il y a même de moins en moins de logements pour ces étudiants, pour diverses raisons qu'on va évoquer, avec des conséquences qui peuvent être gravissimes pour les étudiants issus des familles les plus modestes, c'est-à-dire, lisez ce titre de l'Humanité, faute de logement, j'ai renoncé à mes études. Vous avez des jeunes, aujourd'hui, en France, qui renoncent à des études supérieures parce qu'ils ne trouvent littéralement pas de logement. Il manque 250 000 logements étudiants en France. Il manque 250 000 logements étudiants en France, voilà. Donc, ou on renonce aux études, ou alors, on ne fait pas les études supérieures qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la filière qu'on voulait dans cette ville. Parce que dans cette ville-là, c'est beaucoup trop cher pour la famille dont on est issu. Voilà, donc on lira ça. L'Humanité dit, c'est la responsabilité d'État, c'est un problème politique, c'est à l'État de construire, de mettre à disposition des logements étudiants. Voilà. Bon, je vois que ça vous parle. Certains sont directement concernés, on va en parler tout à l'heure. Anne, merci pour le 13e mois d'abonnement. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je voulais streamer cet après-midi parce qu'il y a quand même des actus vachement intéressantes. Pour finir de façon un peu plus rapide à la fin, on parlera c'est embêtant ça aussi, du grand bond en arrière du bio. En France aujourd'hui, on achète beaucoup moins de bio en volume, notamment fruits et légumes, qu'avant. Ça a baissé, alors que ces dernières années, vous savez, ça avait tendance à augmenter la consommation du bio en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'inflation est passée par là, les prix ont monté, le bio était déjà plus cher avant que les produits classiques. C'est encore plus cher. Donc il y a plein de Français qui ont arrêté le bio. On est revenu 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. Et puis, deux trucs pour terminer. D'abord, ça c'est vachement intéressant ça. Les grosses boîtes qui veulent attirer un petit peu les salariés, parce qu'en ce moment c'est assez compliqué de recruter, notamment les jeunes diplômés des meilleures écoles. Vous savez ce qu'ils font ? Ils proposent la semaine de 4 jours. 4 jours. Tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi. Après, jeudi, 19h, 18h, week-end baby, VSD. Vendredi, samedi, dimanche, ton week-end, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et donc, ça commence à se développer, notamment dans les secteurs en tension, voilà, notamment pour attirer les profils les plus intéressants, notamment les jeunes diplômés. Voilà. C'est la semaine de 4 jours. C'est cool, ça. Hein, on va se pencher là-dessus. C'est un papier dans Le Monde. Et puis, alors là, les plus jeunes d'entre vous, ça va pas vous parler, mais pour les vieux machins comme moi, séquence nostalgie, avec un documentaire sur Goldorak. Goldorak, héros écolo et pacifiste des temps modernes. Ce sont deux Français qui ont fait un documentaire là, qui arrive sur une plateforme là, Paramount Plus, sur Goldorak et sur la petite révolution que ça a été quand c'est arrivé en France il y a genre 40 ans quoi. Voilà. Donc, je sais, mais je plaisantais, c'est pour vous faire réagir. Il y a où es-tu OC Soleric qui dit on n'est pas un culte comme jeune. Je sais que tout le monde connaît Goldorak. Il y a Jean qui dit je préfère Albator. Moi aussi j'adore Albator. J'adore Albator. Ouais. Je vois que vous connaissez vos classiques. Je vois du Fulgur au point, je vois du Astéro H dans le chat. C'est normal. Léo le rigolo nous demande si je lis les journaux sur une application particulière qui permet de les regrouper ou si tu es abonné à tous les journaux individuellement. À une époque, j'étais abonné à une plateforme qui donnait accès à plein de journaux, mais en fait, aucune plateforme ne réunit tous les journaux que je veux, tout simplement parce qu'il y a des journaux qui ne sont pas présents sur ces plateformes, qui préfèrent que les gens s'abonnent directement. Et ces plateformes ont même plutôt tendance à être moins riches en termes de propositions qu'avant. Voilà. Et du coup, il y a moins les journaux qui m'intéressent. Le Monde, par exemple, n'a jamais été sur ce genre de plateforme. Certains journaux que je lis les ont quittés. Donc du coup, aujourd'hui, je suis abonné individuellement à chacun des journaux que... chacun des journaux, pardon, que je vous lis. Voilà, comme ça, je sais que tous les matins, je suis sûr d'y avoir accès. Et en plus, quand tu es abonné à un journal, tu l'as très très tôt en termes d'accès. En fait, les journaux du matin, tu les as dès le soir, en fait. Donc pour moi, c'est vachement intéressant. Et tu les as plus tôt, vraiment plus tôt que si tu passais par une plateforme. Bon, c'est pas forcément important pour tout le monde, mais pour le coup, pour moi, c'est important. Comment ça, un remake de Goldorak est prévu pour 2024, me dit Asner. Comment ça, un remake de Goldorak est prévu pour 2024, on arrête tout. Remake, je vérifie cette info chat. Est-ce que cette info chat est une info sourcée? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, je le vois, je le vois. Quelle bonne nouvelle. Un teaser est même disponible. Un nouvel animé annoncé pour 2023, mais je vois 2024, ça a peut-être été un petit peu retardé. Est-ce qu'on a un petit teasing? On a un petit teasing. Le teaser, c'est quoi? C'est une interview, ça? C'est quoi, ça?
Konnichiwa, Nagaiko desu.
Pareil.
Grandizer の新たなプロジェクトが始動することになりました。
Ouais.
日本の最高のメンバーが結集して、
ouais.
すごいものを作ります。
Ah ouais?
皆さんぜひご期待ください。
Non! C'est fou ce qu'il a dit. Je sais pas si je pense que tout le monde parle japonais. Aujourd'hui, tu peux pas. Culturellement, tu peux pas évoluer dans notre époque si tu parles pas japonais. Donc, je pense que tout le monde parle japonais. Attendez, je vous mets le truc propre. On va faire ça comme ça là. Ouais, ça devrait aller. On fait ça. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Oh, les poils. C'est ça le teaser. Ok. Project G comme Goldorak. Ouais. Bon. Alors Gonagai, le monsieur qu'on vient d'écouter là, si je dis pas bêtise, c'est le créateur de Goldorak parce qu'il est toujours vivant. Voilà. Voilà. Bon, on verra. Bon, moi j'ai. Ça me hype un petit peu, ça va me rappeler mes jeunes années. Voilà. Mais c'est vrai que le teaser, il est pas. Hein, il montre pas grand chose. Voilà. Bien sûr que je suis bilingue au japonais. Mais non, je parle quasiment tous les idiomes qui sont parlés sur notre planète. Voilà. Même certains dialectes. Un peu oublié, voilà, pour le plaisir en fait de l'apprentissage, voilà. Donc voilà. Bon, c'est pas un truc qui me sert au quotidien parce que j'informe et je stream essentiellement en français, voilà. Mais voilà, c'est une bonne une petite mécanique. J'essaie d'apprendre une nouvelle langue toutes les semaines, à peu près, voilà. En général, en 2-3 heures, j'arrive à peu près maîtriser les fondamentaux. Pas pour écrire une thèse dans la langue, mais pour écrire un roman, par exemple. En 2-3 heures, j'arrive à peu près. Je suis bien en forme aussi l'après-midi, hein. Il n'y a pas que le matin. Ok. Bouletto, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. Matt le Basque, je parle le Basque bien sûr. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Hecta, merci pour le troisième mois d'abonnement. Anne, Estivo, merci encore. T'as dormi? Oui, j'ai dormi, bien sûr. Ouais. On veut une démo? Non, j'ai pas le temps. Merci, Mopinou. Bat75, merci pour le quatrième mois d'abonnement. Eh ben, on va y aller, les amis. Est-ce que j'ai un go? Est-ce que c'est parti pour la revue de presse?
Yes.
Ah, décidez, choisissez. Ouais, c'est Yes qui devait de la chance, c'est Yes qui a gagné. Il y avait un combat là, j'ai failli arrêter le stream. Hein. Allez, c'est parti. Ok. La matinale reprend demain. Demain, je suis en question pour un champion. Il y aura peut-être une soirée, Étienne, mais rien n'est sûr. Ça dépendra un petit peu de la forme. Est-ce que j'ai votre Yes? Est-ce qu'on y va pour une fin de journée, Étienne? Est-ce qu'on se lit les journaux ensemble? Est-ce qu'on se met un petit peu sur la tête, là, hein, notamment sur la Baïa, un débat qui va bien nous animer, là, mais de façon chill, respectueuse et sympa. Let's go, c'est parti? Eh ben, c'est parti. Let's go. Une petite mouche. Il faut respecter le vivant. Moi, je ne tue jamais une mouche. Je ne tue pas grand-chose. Moustique un peu l'été. Moustique un petit peu. Alors, parlons de la Baïa. La Baïa, la décision d'interdire la Baïa à l'école a été annoncé dimanche par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Voilà. Donc, vous allez me dire, on est mardi, sauf que tout le monde en parle, c'est un peu un débat. Et tous vos journaux, quasiment ce matin, ont publié un article sur la question qui nous permet justement d'y voir un peu plus clair sur ce débat, sinon sur cette polémique. Le port de la Baïa à l'école va être interdit, ça c'est un article du Monde. Qui est un peu factuel, je voulais commencer par ça. Le ministre de l'Éducation clarifie la situation alors que les signalements d'atteinte à la laïcité sont en hausse dans notre pays. Zoomons un petit peu. Gabriel Attal a donc tranché, écrit Le Monde. J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école. Lorsque vous rentrez dans une salle de classe, dit le ministre, vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des élèves en les regardant. Qu'est-ce que c'est la baïa ? Me demande Akudamou 85 dans le chat. Je vais vous le dire. Monsieur Attal qui dit aussi, là où la République est testée, nous devons faire bloc. Depuis près d'un an, explique le journal, principaux et proviseurs sont confrontés en France à des élèves en abaya, robe longue, alors abaya, robe longue de tradition moyen-orientale, portée au-dessus d'autres vêtements, une abaya, c'est ça. Et donc des proviseurs qui demandaient des consignes claires pour savoir si oui ou non ces vêtements manifestaient ostensiblement une appartenance religieuse, voilà, ou si c'était juste un vêtement. Voilà. Alors si ce vêtement manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, et ben c'est contraire à la loi précisément du 15 mars 2004. Pourquoi les proviseurs demandent une clarification? Parce que l'ancien ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, merci pour tous les messages sur mon passage sur France Inter hier, je suis un petit peu d'accord avec vous, mais voilà. parce que l'ancien ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, lui, il n'avait pas voulu trancher et il avait dit bah, c'est aux proviseurs de décider s'ils veulent interdire ou pas. Du coup, c'était compliqué pour les proviseurs, hein. Notamment parce que certaines jeunes filles venaient voir ces proviseurs en disant bah oui, mais là, à l'école, là-bas, c'est autorisé, alors pourquoi? Bon. La marge d'interprétation laissée au chef d'établissement a pu conduire certains à interdire ces vêtements et d'autres à les autoriser. Bon, maintenant c'est interdit. Quelles écoles? Combien d'écoles concernées en France? Toutes les écoles ne sont pas concernées. 150 à peu près. 150 écoles concernées. On fera un sondage, je vais vous demander tout à l'heure si vous êtes pour ou contre cette décision. 150 écoles particulièrement concernées sur 10 000. 10 000 collèges et lycées dans notre pays. Voilà. Offensive idéologique. Est-ce que c'est une offensive idéologique, le fait qu'il y ait de plus en plus de ports d'abaya à l'école? Est-ce que c'est une provocation adolescente? Est-ce que c'est un défi sur les réseaux sociaux? Voilà. Bon. En tout cas, ce sont les explications avancées pour expliquer la recrudescence des faits rapportés offensive idéologique, provocation adolescente, défis sur les réseaux sociaux, culture du signalement en progression aussi peut-être chez les chefs d'établissement. Nul besoin, explique Le Monde, d'une nouvelle loi pour interdire les abayas à l'école, puisque la loi du 15 mars 2004 que j'évoquais a été rédigée de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes religieux. Il ne dresse pas ce texte une liste, mais rappelle un grand principe en France qui tient en quelques lignes dans les écoles, les collèges, les lycées. Le port de signes ou tenues ostensiblement manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Ça, c'est la loi. Une circulaire d'application en mai 2004 a précisé la loi, vient préciser les signes qui conduisent à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, le voile, la kippa, ou encore, dit cette directive, une croix de dimension manifestement excessive. Voilà, donc la loi et la circulaire d'application disent que tous ces signes, dans l'école publique, bien sûr, pas dans des écoles confessionnelles, sont interdits, kippa, croix d'une certaine taille et le voile. Et à l'époque, la circulaire ne parlait pas de l'abaya, puisqu'on est en 2004, et l'abaya n'était pas portée en 2004 dans les écoles françaises. C'est venu après. Mais la loi interdit aussi les signes ou les tenues qui ne sont pas par nature des signes d'appartenance religieuse, mais le deviennent indirectement et manifestement compte tenu de la volonté de l'école, de l'élève, de leur faire produire cette signification. Je m'arrête là-dessus parce que c'est important. Oui, oui, quelqu'un me dit « Ah, parce que les petites croix, ça passe ?» Oui, a priori, oui, les petites croix, ça passe. Mais je pense qu'il est... Les petits signes liés à l'islam, petit, ça passe aussi, je pense que, voilà. C'est le côté ostensible, en fait, le côté volontairement ostensible, volontairement visible, en fait, qui est interdit par la loi. Quelqu'un me dit, ah, mais c'est nul comme débat. Hein, c'est la question de la laïcité, en fait. C'est un débat très complexe. Qu'est-ce que c'est la laïcité ? En plus, tous les pays n'ont pas la même définition de la laïcité. Si tu vas en Turquie, si tu vas... Tu vas aux États-Unis, si tu vas en France, ce sont autant de définitions de la laïcité différentes. Est-ce que la laïcité, c'est pour résumer... Je vois qu'Iris est là. Quelqu'un dit bonjour à Iris. Salut Iris. Est-ce que la laïcité, c'est interdire toute expression religieuse dans le domaine public, définition stricte, ou est-ce que la laïcité, c'est la tolérance de toutes les expressions religieuses dans le domaine public ? Ça n'est pas la même chose. Et selon votre, vous, là vous êtes 2000 à peu près, selon votre définition de la laïcité, eh bien vous allez apporter une réponse différente à toutes les questions qu'on se pose là. Est-ce que la laïcité, c'est l'interdiction de toute expression religieuse dans l'espace public ? Ou est-ce que c'est la tolérance absolue de toute expression religieuse dans l'espace public ? Bah, c'est pas la même chose. Et il y a des gens qui pensent que la laïcité, c'est l'un ou c'est l'autre. Ça se retrouve au niveau politique, on le verra dans un instant. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour l'article du Monde qui pose un petit peu le... On va faire un sondage, bien sûr, Bérangère, qui pose un peu le contexte. Après, il y a différents articles qui vont un peu plus loin sur l'analyse et de qui pense quoi, et notamment au niveau politique. Libération. D'abord, souligne que... Alors, les proviseurs voulaient un petit peu une clarification. Alors, il y a une clarification, mais pas tant que ça. Par exemple... Est-ce qu'on sait exactement ce qu'est une abaya ? Hein, sur Internet, depuis quelques jours, il y a plein de petits malins qui s'amusent à poster une robe de soirée, une robe longue, un kimono, en disant « Alors ça, c'est quoi ça ?» C'est compliqué. Une frontière ténue, dit Libération, parfois entre l'abaya et une robe longue, quoi, hein, une zone grise. Donc Libération estime que pour les proviseurs, ça ne va pas forcément être facile. Gabriel Attal ne prévoit pas de définir ce qu'est une abaya, estimant que les chefs d'établissement le savent très bien. Ce que conteste par exemple Isabelle Ratti, c'est qu'Isabelle Ratti, c'est une syndicaliste enseignante, qui est proviseur également dans le Rhône, et elle dit « Les abayas qui sont portés à l'école ressemblent rarement à des robes noires, ras du cou avec des manches chauve-souris qui sont facilement identifiables, hein, c'est le terme consacré. Avec ma CPE et mon proviseur adjoint, on n'est pas toujours d'accord, par exemple, entre nous pour savoir ce qu'est une abaya. Ah, ça, c'est une abaya. Bah non. Ah bah si. Oui. Il restera, selon cette femme, toujours une zone grise sur cette tenue. » Comme c'est le cas aujourd'hui pour le voile, avec des élèves qui remplacent le voile qui est interdit dans l'école de la République, par des bandeaux, par exemple. La parole à Sylvie Pénicaud, autre syndicaliste enseignante aussi, qui explique que l'an dernier, plusieurs élèves se sont pointés dans son école en kimono, quand on leur a demandé de ne pas revenir en abaya. Voilà, donc l'application ne va pas être forcément facile. Et maintenant, Libération se penche sur, et ça va éclairer un petit peu notre débat, et après je vais vous lire, sur les divisions à gauche sur cette question. Parce que, pour résumer, à droite et à l'extrême droite, on a plutôt applaudi cette décision du gouvernement d'interdire l'abaya. Mais à gauche, il y a des gens qui ont dit « ouais, c'est une bonne décision ». Et puis à gauche, il y a des gens qui ont dit « mais non, c'est une mauvaise décision ». La gauche est divisée sur cette question, et cette division, elle éclaire le débat. On y va. Heroes Gohan, merci beaucoup pour le 20e mois d'abonnement. Mela, merci pour le 13e mois d'abonnement. À gauche, des divergences aux airs de désavus, parce que ce débat, il a lieu depuis longtemps à gauche. Je lis l'article de Libé. L'annonce faite par le ministre de l'Éducation de l'interdiction des abayas en milieu scolaire divise les partis de la NUPES. Insoumis et écologistes, donc LFI et écologistes, dénoncent une stigmatisation des jeunes musulmanes, tandis que socialistes et communistes approuvent la mesure, au nom d'une certaine définition de la laïcité. Pas de répit pour la gauche. Après des débats estivaux parfois virulents autour de la question des européennes, voilà que le gouvernement offre à la NUPES un nouveau sujet synonyme de division, l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires pour cette rentrée. Et comme à l'époque des débats de 2004 sur le voile islamique dans les écoles ou le niqab dans l'espace public en 2010, donc vous avez vu ce débat, on l'a déjà eu lieu dans le passé, eh bien la gauche n'a pas manqué d'afficher ses divergences. Les insoumis ont dégainé très vite, explique Libération, pour dire tout le mal qu'ils pensent de l'annonce par le nouveau ministre de l'Éducation de cette mesure. Jusqu'où ira la police du vêtement, par exemple? C'est agacé sur Twitter la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. Donc elle dénonce une police du vêtement. La proposition de Gabriel Attal, selon Clémentine Autain, est anticonstitutionnelle, contraire au principe fondateur de la laïcité. Vous voyez, tout dépend de la définition de la laïcité qu'on a en fait. Symptomatique du rejet obsessionnel du musulman, selon elle. À peine rentrée, la Macronie tente déjà de prendre le RN par la droite. Lundi matin, Jean-Luc Mélenchon était aussi sur cette ligne en écrivant « À quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer ?» Pour LFI, cette interdiction n'est que stigmatisation des musulmanes par le gouvernement pour ne pas avoir à répondre aux vrais problèmes de la rentrée. Manque de professeurs, hausse des prix des fournitures scolaires. Si Attal se souciait vraiment de la laïcité de l'école, eh bien il récupérait les milliards d'euros donnés chaque année aux écoles privées confessionnelles et il supprimerait l'heure d'enseignement religieux dans les écoles publiques d'Alsace-Moselle. Hypocrite, dénonce par exemple le député Mathias Tavel. Chez les écologistes aussi, plusieurs élus ont fait part de leur agacement après les déclarations d'Attal. L'an dernier, c'était l'interdiction du crop top qui était annoncée. Cette année, c'est de l'abaya, le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles. Toujours, regrette par exemple la députée de Paris, Sandrine Rousseau. Alors, d'un côté, donc, insoumis écologistes, de l'autre, qui soutiennent la mesure, communistes et socialistes. Sur Twitter, plusieurs élus PS ont applaudi la mesure d'Attal. Notre boussole, c'est l'interdiction des signes ostensibles à l'école, dit par exemple le député socialiste Jérôme Guedj. Pour le secrétaire national du PS chargé des questions de laïcité, donc M. Guedj, il ne s'agit pas là d'une police du vêtement, mais d'une police du prosélytisme à l'école. Prosélytisme à l'école, c'est-à-dire vanter une religion à l'école. La parole à Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, qui a dit qu'il approuvait également cette décision d'Attal. Avant de vous lire, parce que je vois un débat très intéressant dans le chat, merci Poum pour le 23e mois d'abonnement, c'est énorme, je vais vous lire un dernier article là-dessus, et puis on en parle ensemble, on débat ensemble, je vous lis, et puis on fait un sondage. Hein ? Là, c'est une historienne, une anthropologue, pour être précis, pardon, une chercheuse spécialiste de l'islam qui s'appelle Florence Bergeau-Blaclair, qui est interrogée par Le Figaro et qui salue cette décision du gouvernement qui dit « ouais, il fallait prendre cette décision ». Pour elle, le port de l'abaya, c'est une conséquence de la surenchère des prédicateurs islamistes. Alors on va essayer de comprendre sa pensée, et vous allez me dire ce que vous en pensez justement, vous. Que représente l'abaya dans la culture musulmane déjà ? C'est la question du Figaro. Et elle répond « comme le foulard, l'abaya n'est pas un signe religieux à proprement parler. » Elle est d'accord avec ça. Merci 8 Studios, merci beaucoup. C'est plutôt un instrument, un vêtement qui permet à celle qui le revêt de se conformer à une norme religieuse rigoureuse. Ça n'est pas un signe religieux, mais c'est un vêtement qui permet à celle qui le revêt de se conformer à une norme religieuse rigoriste. Cette norme qui veut que la femme ne montre pas les formes de son corps, qu'elle les dissimule dans l'espace public et ne laisse paraître que son visage et ses mains. Alors tout le monde n'est pas d'accord. Le Conseil français du culte musulman, le CFCM, dans un communiqué, a dit que l'abaya n'était pas un vêtement religieux et donc que la loi de 2004 n'était pas applicable. Cette chercheuse dit ça, c'est une ruse pour empêcher qu'on l'interdise à l'école, mais sa fonction est évidemment religieuse. Elle poursuit, le hijab comme l'abaya ne sont pas des signes identitaires, mais ce sont bien des pratiques religieuses, celles de se conformer à une interprétation rigoriste de l'islam. Il faut pour cela comprendre ce que cette chercheuse appelle la logique de surenchère du halal. Rien n'est jamais trop halal pour le salafisme et pour sa version frériste. Au début, on demande aux filles de porter le foulard pour plaire à Dieu. Elles y consentent et la commode avec un jean, des baskets. Puis on leur fait comprendre que la signification profonde du hijab, c'est de voiler leur corps pour plaire à Dieu. Arrive alors l'abaya, cette longue robe couvrante qui dissimule toute forme féminine. Il est certain que le marketing islamique de la mode pudique va proposer des nouveaux modèles, hein, des modèles un peu sympas, un petit peu colorés. Mais là encore, les filles seront invitées à mettre des couleurs moins voyantes, etc. Il y a un jeu entre la norme islamique rigoriste et le marketing de la mode, mais qui, in fine, se fait en faveur des prédicateurs les plus rigoristes. Les prédicateurs, selon cette spécialiste de l'islam, poussent les jeunes femmes à se rendre de plus en plus conformes, de plus en plus soumises à la loi de Dieu, en leur disant qu'elles sont plus belles, plus désirables, qu'elles seront mariées plus facilement, et certaines finissent par céder. L'effet de mode et de résistance à l'autorité peut aussi attirer des adolescentes. Hein. L'effet de mode et de résistance à l'autorité peuvent aussi attirer des adolescentes qui s'enorgueillissent de s'affirmer comme musulmanes et ne sont pas pratiquantes. Une fois qu'elles portent ce vêtement, elles sont, estime toujours cette chercheuse, repérable et invitée à des activités de socialisation religieuse. C'est souvent la première entrée vers un univers d'endoctrinement religieux. Vous commencez par un vêtement pour vous identifier à une bonne musulmane, ensuite on vous propose d'aller à la mosquée, puis dans les cercles de réflexion, puis dans des lieux de socialisation religieuse. Le Figaro dit « Mais toute l'ambiguïté de l'abaya réside précisément dans le fait que ce n'est pas un signe religieux », dit le Figaro. Et elle répond « Ce qui lève l'ambiguïté, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Le caractère collectif a organisé cette manifestation, le fait que d'un coup il y a eu de plus en plus d'abayas en France, le déni bien appris des jeunes filles face aux proviseurs, hein, des jeunes filles qui disent mais c'est pas du tout un vêtement religieux, c'est un vêtement, et au contraire leurs revendications religieuses et même prosélytes sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de phénomènes isolés sur lesquels il n'y aurait aucune raison d'intervenir. Les services de surveillance ont identifié ce qu'ils ont appelé une offensive dès le mois d'août 2022 en prévision de la rentrée scolaire. Les statistiques mensuelles ont confirmé cette tendance à la hausse. Il fallait donc, selon elle, prendre cette décision ferme et claire avant la rentrée au risque d'une levée de boucliers qui d'ailleurs n'a pas tardé puisque la frérosphère s'est immédiatement manifestée. Dernière question du Figaro, je vous lis. Question du Figaro à l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair. À gauche, on compte déjà les réactions dénonçant une police du vêtement ou une position contraire au principe de laïcité. Que répondez-vous? Elle dit, bien au contraire. C'est une décision qui combat les discriminations. La neutralité des vêtements est un outil très efficace contre les stigmatisations. Voilà. Certaines idées, certaines positions, certaines analyses. Je vous lis. Et on fait un petit sondage. Alors, l'étoile rouge des comptoirs critique l'analyse de cette anthropologue en disant « Il faudrait demander pourquoi le Figaro considère cette intervenante comme légitime. Elle a toujours eu des sorties bien islamophobes et est largement critiquée dans la communauté scientifique, dis-tu ?» Ce genre de décision, estime Coltelm, ne fait que diviser la population et crisper les gens sur leur position. Merci Lilou Rennes, comment vas-tu? Merci pour le cinquième mois d'abonnement. C'est une fin de journée, Étienne. Du coup, c'est la vôtre. Très bonne blague de Crimson, mais cette robe, cette abaya, est-ce que c'est doré ou bleu ou pas? Je ne suis plus du tout. Très bon. Pag Superman nous dit franchement, le problème en France, c'est qu'on se complique la vie. Pourquoi en Grande-Bretagne, par exemple, ils s'en foutent et pas nous? Parce qu'on a une définition de la laïcité qui n'est pas la même en fait que celle de nos amis britanniques. Voilà, Scarabot estime au contraire qu'effectivement, un vêtement peut devenir religieux par destination, si celui-ci est utilisé pour montrer une appartenance religieuse. C'est toute la question. Quelle est, alors moi je ne suis pas dans la tête de ces jeunes filles, quelle est l'intention de la plupart de ces jeunes filles qui, depuis quelques mois, c'est assez récent comme phénomène, portent des abayas dans un cadre scolaire. Quelle est l'intention? Je ne sais pas, moi. Mais tout le débat est là. Est-ce que l'intention est religieuse? Est-ce que l'intention est de montrer une appartenance religieuse? Dans ce cas-là, c'est interdit par la loi de la République. Est-ce que ça n'est pas l'intention pour ces jeunes femmes? Ce n'est qu'un vêtement, ce n'est qu'une mode, c'est pour faire comme les copines. Ou je ne sais pas. Dans ce cas-là, il ne faut pas l'interdire. Mais bah, quelle est l'intention? La question, c'est ça. Si dans le chat, il y avait des jeunes filles, des jeunes femmes qui portaient la baya, par exemple, bah, ça m'intéresserait. Je vous lis un petit peu et on fait un sondage. Hein, bah, par exemple, sur la question que je viens de poser à l'instant, Charlie écrit bien sûr que c'est pour montrer une appartenance. Quelqu'un me dit bah non, c'est pour le confort. Voilà. Hein, l'intention est juste de s'habiller, je pense, me dit Nzizi. Voilà. C'est un outil pour faire preuve de pudeur, me dit Louési, religion ou non. Voilà. Bah cool, juste au-dessus n'est pas d'accord, c'est de la provoque, la République doit être ferme, vous voyez? Le débat politique, on le retrouve ici dans le chat, c'est intéressant. Mais encore une fois, je vous salue parce qu'on est sur des sujets extrêmement sensibles. Dans plein d'endroits, ce serait une foire d'empoigne. Et là, je trouve que vous arrivez à échanger ensemble. Alors, vous n'êtes pas sur les mêmes positions de façon assez tranquille, quoi. Et apaisée. Et c'est ça qui est cool. Fred at home, merci pour le 21e mois d'abonnement. C'est de la pudeur, estime Alke ici. Hein. Donc, être pudique, c'est montrer son appartenance religieuse. Alors, vous êtes nombreux à dire que l'uniforme nous réglerait tout ça. Hein. Vieux débat, ça aussi. C'est marrant, la notion de pudeur revient beaucoup, qui n'est pas du tout évoquée par ces articles. C'est intéressant, vous voyez. Là, on est sur une info augmentée. Vous évoquez des arguments qui ne sont pas évoqués dans les journaux. La question de la pudeur à un âge où peut-être masqué. Son corps et ses formes peut être une intention, effectivement. J'entends. Allez, sondage? Ok? Allez. Un petit sondage. Je vais faire simple, hein. Voilà. Approuvez-vous l'interdiction de l'abaya à l'école? Un sondage, c'est toujours. Simplificateur au possible. Là, on a essayé de pas simplifier, on a essayé d'échanger ensemble, de comprendre tous les points de vue. Le sondage ne vient pas clore le sujet. C'est pour avoir une idée un petit peu des ordres de grandeur. Voilà. Est-ce que vous approuvez cette décision d'interdire l'abaya à l'école? C'est la question que je vais vous poser. Approuvez-vous l'interdiction de l'abaya? Approuvez-vous l'interdiction, j'ai presque pas fait de faute, de l'abaya. À l'école, bien sûr, vous l'avez compris, mais ça ne rentre pas. Oui, vous approuvez cette décision du gouvernement au nom d'une certaine définition de laïcité. Non, vous pensez que c'est un faux débat, c'est une façon de stigmatiser une partie de la population, c'est voilà, de tous les ce qu'on a évoqué. Non, pour vous, c'est une mauvaise décision, et je ne sais pas. Parce que dans une démocratie, et encore heureux, on a le droit de ne pas avoir d'avis aussi. Voilà, c'est parti, vous avez 2 minutes. Et pendant ces 2 minutes, bah, je vais continuer à lire quelques messages. Bien sûr. Allez, je vais en bas du chat. Bon, en tout cas, ça vous fait énormément réagir ce sujet. Eh ben, c'est bien. Eh ben, c'est bien. Voilà. Parce que ce qui est bien dans un état de droit, une démocratie, c'est que tout le monde puisse s'exprimer dans le cadre de la loi. Et Twitch est un des endroits où justement on peut avoir ce débat. Oh là là, il y a trop de messages, j'arrive même pas à descendre en bas du chat. Voilà, j'y suis. Voilà, Zachan, au collège où j'ai travaillé, on a déjà demandé à une élève d'éviter de venir en abaya après plusieurs fois, mais ce qui nous embête, malgré tout, c'est que le ministre de l'Éducation se penche sur un problème qui n'est pas primordial du tout, il y a plus important. Voilà. Qui m'écrit? Ah oui. Attends, ça, oui, c'est un message important. Ok, super, merci. Alors. Alors, Hermès 64 nous propose une définition de la laïcité. Alors, le problème, c'est qu'en France, les gens ont des définitions différentes. Toi, tu as une définition, je qualifierais de souple, par opposition à ferme, et tu dis, Hermès, la laïcité devrait garantir la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans la limite du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou de conviction. C'est ce que j'appelle la définition souple de la laïcité, hein, qui devrait permettre l'expression de toute idée ou appartenance religieuse dans l'espace public. Et puis il y a une définition stricte, ferme de la laïcité, qui est l'interdiction de l'expression du sentiment religieux dans l'espace public. Voilà, on est plutôt sur cette définition-là à l'école. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, le résultat du sondage, vous êtes sur ceux qui ont souhaité s'exprimer ce soir sur cette chaîne. C'est pas forcément représentatif, bien sûr. 51% a approuvé la décision du gouvernement d'interdire l'abaya à l'école. Vous êtes 33% à penser que c'est une mauvaise décision. Et vous êtes 16%, ce qui ne m'étonne pas, parce que c'est un sujet compliqué, à réserver votre avis sur cette question. Bon, en tout cas, je suis content de l'avoir évoqué avec vous. Et encore une fois, c'est pas pour vous flatter. Je trouve que sur un sujet aussi tendu que celui-ci, qui renvoie en plus à d'autres questions, la question religieuse, la question de l'immigration, mais je trouve qu'on a un chat qui se tient, voilà, parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous, mais vous arrivez à le constater de façon assez chill. Expat4, merci beaucoup pour le 5e mois d'abonnement, The Voyageur pour les bits, Cutbuto34 pour le 2e mois d'abonnement, merci de ce soutien. On y reviendra sans doute. Mais je voudrais vous parler d'autres sujets également. Alors, je voulais vous parler de ça aussi. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est demain. Ça, c'est un des temps forts de l'actu politique de demain. Au début de l'été, le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé une initiative politique d'envergure. Alors, c'est important parce qu'il est un peu, pour dire les termes, il est un peu embourbé, le président Macron. Il est sur une dynamique de deuxième quinquennat qui n'est pas folle. Rappelez-vous du débat très compliqué sur les retraites. Et puis, il a une majorité qui n'est pas absolue à l'Assemblée, qui est relative et donc qui est insuffisante pour faire passer facilement les projets de loi, les réformes qu'il souhaite, en tout cas sans en faire appel au 49-3. Donc, il a une situation politique qui est compliquée. Donc, quand au début de l'été, il annonce une initiative politique d'ampleur, vous laissez entre guillemets ici, bon, forcément, on attend, on se dit « Ah bah oh, quoi ? Mais que va-t-il se passer ?» Maintenant, on sait depuis quelques jours qu'effectivement, cette grande initiative, c'est d'inviter tous les partis politiques, tous les représentants des principaux partis politiques, merci beaucoup Linkoret pour ce raid, à une grande réunion qui va avoir lieu demain, dont je vais vous préciser les contours, pour, l'objectif c'est quoi ? Je vais remercier la chaîne qui vient de nous raider à l'instant. Merci, c'est pas la première fois, je crois, non? Merci beaucoup, Linkorep. J'adore l'explication du pseudo. Princesse des malades, c'est trop mignon. La chaîne qui vient de nous raid, c'est celle-ci. Princesse des maladresses qui veut répondre à la bonne humeur et le bien-être. Déjà, c'est un beau programme. Link et Kotorep, ça fait Linkorep. Voilà, j'aime bien l'explication de ce pseudo. D'accord, je comprends. J'aime bien aussi la façon dont tu te présentes ici. Avec un bras en carton, je suis quand même lectrice, prof de langue, gameuse et cuisinière. C'est un joli programme. Je suis aussi fan de tout ce qui puisse justifier qu'un mec porte une perruque. Et je voudrais sauver des bébés loutres. C'est une des bios les plus mignonnes que j'ai lues. Merci pour ce raid, c'est adorable. J'espère que je t'ai raid moi-même une fois. Voilà. J'espère, si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on le fera. Merci en tout cas. Voilà. Merci pour ce raid à l'instant. Merci de nous rejoindre. On vient de parler du débat sur l'abaya en France. Voilà, sujet tout à fait chill. Et là, maintenant, on est sur cette initiative politique d'ampleur précise annoncée au début de l'été par le président et qui se concrétise puisque c'est demain à 15h jusqu'au soir, puisqu'il y a un dîner aussi qui est prévu. Après, on verra si tous les responsables politiques vont rester au dîner. Eh bien, il y a cette grande réunion de tous les partis politiques autour du chef de l'État. L'ambition, c'est quoi? Je vous le résume au maxi. C'est de réussir à se mettre d'accord tous ensemble, ouais, autour de certains sujets, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, pour arriver à des projets de loi, voire même à des référendums. Quand vous voyez les lignes de fracture de la classe politique française aujourd'hui, mettre tout le monde d'accord, bah tu vois, Sidérieux le dit au même moment, je trouve que ça va être compliqué avec les représentants actuels. Bah, ouais. Permettez-moi d'être un petit peu sceptique, peut-être que je me trompe, lisons l'article du Parisien. Les dirigeants politiques invités mercredi, donc c'est demain, à échanger avec Emmanuel Macron, sont perplexes, vous voyez, je ne suis pas tout seul, devant le manque d'informations sur la tenue des réunions, improvisation ou culte du secret. En fait, les responsables politiques invités demain n'ont pas beaucoup d'infos sur ce truc. Au compte-gouttes, okay, vous êtes plusieurs à me demander tout à l'heure, mais comment se fait-il que tu es à la fois sur Twitch et sur France 3 à Question pour un champion? En fait, l'explication est très simple. C'est un escroc. L'autre, c'est un escroc, c'est un faux. Si vous regardez bien, il n'a pas ce joli teint. Il n'a pas ce teint lumineux. Il n'a pas cet œil et ce poil brillant. Il n'a pas cet esprit très vif aussi. C'est un escroc. Voilà. Il me ressemble vaguement. Voilà. Donc, il use de cette vague ressemblance depuis des années déjà. Pour se faire son beurre, disons les choses. Mais le vrai, le seul, l'unique, il est là. Voilà pour l'explication. Et plus sérieusement, lisons ce truc. Donc, au compte-gouttes, voilà le niveau d'information livré à ce stade au chef de parti convié par Emmanuel Macron ce mercredi, donc demain, pour la fameuse réunion inédite qualifiée d'initiative politique d'ampleur pour sortir le pays des crises carrément, formalisée par le président samedi dernier via une lettre d'invitation en forme de main tendue donc aux partis politiques. Sauf qu'à ce stade, ça c'est génial, dans les couloirs de la majorité comme chez les personnes invitées, on sait peu de choses sur la manière dont cette façon va se dérouler. C'est cool. C'est flou, résume un participant. Plusieurs figures de l'opposition ne cachent pas même leur perplexité, c'est-à-dire qu'ils ont accepté l'invitation, mais en fait on ne sait pas ce qui va se passer. Tout juste connaît-on les thèmes abordés, l'international, l'autorité, la cohésion de la nation, les questions institutionnelles, l'heure, c'est à partir de 15h, et l'endroit, ça va se passer à l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis, c'est un très bel endroit d'ailleurs, magnifique que j'ai eu la chance de visiter. Quant à l'organisation des prises de parole, l'objet du dîner, parce qu'il y a un dîner, la manière dont Macron entend tenir les échanges, les conclusions, le mystère persiste, c'est flou. Adèle Baran, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. Le président, en tout cas, c'est l'objectif, lui, espère aboutir à des textes législatifs et ouvrir la voie peut-être même à de possibles référendums. Selon les informations du Parisien, il y aurait deux tables rondes dans l'après-midi, puis le dîner, puis une troisième table ronde. Tout se passera à huis clos, c'est-à-dire que ce ne sera pas public, a priori sans communiqué commun à l'issue. Très mystérieux. MDGT13, merci beaucoup pour le prêt. Hein. C'est flou, et quand c'est flou, il y a un loup, Caradoc nous le rappelle bien sûr. Il y a Nix qui estime que le Manu avance à vue, c'est joli, le Manu avance à vue. Quand tu veux enterrer un sujet, tu fais un grand débat, dit Spla Gada. Bon, il n'y a même pas de grand débat là. En fait, on ne sait même pas de... Salut, jeune gouze. Voilà, c'est flou. Mais, voilà, ouais, ce qui est cool aussi en politique, c'est les surprises. Hein, c'est... Parfois, il se passe quelque chose. Oh, putain, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Voilà. Bon, voilà, qu'est-ce qui va se passer demain? Voilà, c'est, j'aime bien ce côté un peu mystérieux. Voilà. Donc vous suivez, quand vous entendrez parler de, peut-être demain les médias, les chaînes d'info continue, internet, que sais-je, de ce truc, vous avez à peu près les clés de ce qui va se passer. Stone 2, salut à toi. L'info augmentée, c'est ici. Ça, c'est intéressant. La première fois que je vois un papier comme ça sur le doute qui commencerait à gagner une partie des Américains dans le soutien à l'Ukraine. C'est un dossier en une du Figaro. Aux États-Unis, premier doute sur l'aide à l'Ukraine. L'absence de percée militaire durant l'été, la fameuse contre-offensive ukrainienne qui n'enregistre que peu de succès, hein. La ligne de front ne bouge quasiment pas en raison de la résistance de la ligne de front russe. Eh bien, l'absence de percée militaire cet été nourrit les interrogations du Pentagone. De plusieurs candidats républicains, il y a une élection bientôt aux États-Unis, à la présidence, notamment un certain Trump, et d'une partie de l'opinion publique. Alors, il y a un gros dossier, mais c'est extrêmement bien résumé par ce petit article en première page que je vais vous lire, vous allez tout comprendre. Pardon, je lisais un commentaire. Je zoome, je me bois une gorgée d'eau. Vous avez vu, j'ai une hygiène de vie en ce moment. Eau claire, café, sans sucre, sans lait. Hein, on est vraiment sur une hygiène de vie de fou. Hein, voilà. Le résumé, il est là. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, l'opinion américaine tangue. Un sondage divulgué au début du mois a frappé les esprits à Washington. 55% des personnes interrogées se déclarent désormais hostiles à une rallonge financière pour Kiev. Les États-Unis ont déjà contribué à la guerre contre la Russie pour un montant vertigineux, écrit le Figaro, 113 milliards de dollars, soit 900 dollars par foyer. Chaque foyer américain, ben, si on fait une moyenne, aurait déjà déboursé 900 dollars pour soutenir l'Ukraine. Du coup, le chef d'état-major américain ne cesse de répéter que le conflit sera sanglant, long et lent, ce qui alimente les inquiétudes sur la durée de l'aide américaine. Des voix commencent à s'élever au Congrès pour constater que les Ukrainiens ne gagnent pas et estimer que nous avons fait ce que nous pouvions. Au moins trois des candidats républicains à la Maison-Blanche, à commencer par Donald Trump, préconisent de se concentrer sur les priorités domestiques. On a une présidentielle qui approche. La campagne présidentielle, justement, promet d'accroître la pression sur le président sortant et le camp démocrate. Rien de plus à vous dire là-dessus, mais voilà, depuis, c'est l'inquiétude en Ukraine, et c'est l'inquiétude dans les pays, notamment occidentaux, qui soutiennent l'Ukraine, c'est qu'à un moment, les opinions publiques se lassent, notamment en raison de la durée de cette guerre et du coût de cette guerre, et demandent à leurs gouvernants d'arrêter de soutenir l'Ukraine. Quoi. Et on sait très bien ce qui pourrait se passer si l'Ukraine n'était plus soutenue par certains pays occidentaux. Eh bien, c'est Poutine qui gagnerait ce conflit. C'est quoi l'énorme vibro violet branché à côté de ton téléphone, Samuel ?
Ah ça,
ça c'est un cloud filter. C'est un truc qui est branché entre ma table de mixage et mon micro pour booster le micro en réduisant le souffle. C'est pour avoir une bonne qualité de son. Révolution quand j'ai découvert ce truc-là. Cloud lifter, ouais c'est ça, pas shifter. Poutine mise là-dessus, Drinval. Ah oui, clairement. Je vous lis sur l'Ukraine. Alors, Nix me dit que le chiffre qu'on vient d'évoquer de 113 milliards de dollars, c'est à rapporter au budget global de l'armée américaine qui est de 1000 milliards. C'est beaucoup quand même. Valfar, merci beaucoup pour l'abonnement. Merci pour le soutien. Je vous lis. Hein. été ban. Il y a Stone 2 qui me dit que Defend Intelligence, qui est un streamer qui, si je dis pas de bêtises, a notamment installé une IA Macron là, et Charles de Gaulle, général de Gaulle, pour répondre aux questions des viewers ces derniers jours. J'ai beaucoup ri, je suis tombé dessus. Mais je l'ai raid même d'ailleurs. Il a été ban. Quelqu'un me dit qu'il était peut-être unban même. Alors racontez-moi ça, ça m'intéresse ça. Vous voyez un petit peu ce qui s'est passé sur Twitch là, c'est Defend Intelligence qui a mis en place une IA et c'est le président Macron qui répondait aux questions. Et il a été ban ? Ok, depuis cet après-midi ? Ah merde. Ok, j'ai une explication qui est apportée par Colt HLM qui me dit que Defend Intelligence a été ban parce qu'un viewer lui a demandé les pires noms de villages et il a dit un nom de village qui pourrait être interprété comme de l'antisémitisme. Oh là 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 là. Ban définitif, ban def, me dit Tourtemiel, ban def, me dit Choupichon. C'est pas un ban provisoire. Pour discours haineux dans un classement des pires villages où l'IA a dit le mot juif. Ouh, ça nous rappelle l'histoire du joueur de JDG, ça. Incroyable. Ah, j'ai pas vu Twitter, j'ai pas vu. Ouais, mais attends. C'est incroyable, ça. J'étais sur le live hier, j'étais mort, me dit Sachilop. Ouais. Oh, je trouvais ça drôle, moi. Particulier, la modération Twitch. D'accord. C'est fou, ça. Ok, j'étais pas au courant. D'accord, ok. Alors, c'est drôle parce que je vous dis tout. Moi, je cherchais un quatrième invité pour l'hebdo Étienne. Ah, je vais vous dire qui je reçois. Je suis de bonne humeur. Je vais vous dire qui je reçois vendredi pour le numéro 2 de l'hebdo Étienne saison 2. Je reçois roulement de tambour. On dirait une vieille mobilette. C'est pas du tout un roulement de tambour. Je reçois vendredi soir 20h. Monsieur Poulpe. Le retour. Je reçois Jean Massier. Le retour. Je reçois. C'est quoi son nom de famille ? Manon. Merde, j'ai un doute. Non, c'est Mela. Je dis pas de bêtises, c'est Manon. Manon Mela. Oh là là, mémoire de vieux là. Nul. Manon Mela. Je me suis pas trompé. Manon Mela, journaliste de France Info, qui l'an dernier présentait tous les soirs sur France Info, sur la chaîne Twitch de France Info, la radio, un stream d'actualité, hein, 18h-19h. Voilà. Donc Manon, ce serait sa première dans l'hebdo Étienne. C'est cool. Donc Monsieur Poulpe, Jean Massier, Manon Malin, voilà. Et puis à un moment, il me manquait un quatrième invité. Et j'ai failli lancer une invitation à Defend Intelligence au vu de sa petite actu là. Je trouvais ça marrant en fait qu'il nous parle un petit peu de ça, quoi. Voilà. Et puis je l'ai pas lancé parce qu'entre temps j'ai eu un retour positif d'un autre invité. Voilà. Mais du coup, j'aurais dû l'annuler puisque vous savez que quand un streamer est ban, il peut pas. Vous allez me confirmer ce que je dis. Il peut pas apparaître sur une autre chaîne. On est d'accord ou pas ? On est d'accord que... Hein ? Exact, me dit Masouda. Exactement. Donc j'aurais dû annuler cette invitation de toute façon. Voilà. Donc, donc la personne qui m'a répondu positivement et qui est donc mon quatrième invité, je vais vous donner ses initiales. C'est un comédien, c'est un humoriste, prénom qui commence par un A. Et nom de famille commence par T. Alors, facile, hein, facile. Bon, et Arnaud de sa mère, bien sûr, MGCTF a gagné le concours. Donc, vendredi 20h, s'il vous plaît, on a Alain Tabac, j'adore, très bon. Jean Massier, Monsieur Poulpe, Manon Mela et Arnaud de sa mère. Bien ou pas bien ? La petite line-up de vendredi. Alors, c'est joli ou pas ? C'est cool en vrai, non ? Hein ? Quoi, bof, bof ? Police Macron. C'est quoi ce pseudo ? Non, c'est excellent. C'est très, très bon. De nouveau, deux habitués. les habitués, Monsieur Poulpe, bon, je ne compte même plus combien de fois il est venu. Jean Massier, qui est celui qui est venu le plus souvent l'an dernier, et pour cause, je kiffe son travail. Et de nouveau, Manon Mella, c'est la première fois, pas sur Twitch, mais sur ma chaîne et sur l'Hebdo Etienne. Et donc, notre ami humoriste que vous avez trouvé à l'instant, Monsieur de sa mère. Poulpe et de sa mère, ça va déménager, ouais, je pense, ouais. Je pense, effectivement. Voilà. Et Bruno Solo, ouais, le 8 septembre, ouais. Bruno Solo va venir le 8 septembre, donc l'émission d'après dans l'Hebdo Etienne. Alors, on va se régaler. Hein. Il y a Bruno, il y a d'autres gens aussi. L'émission, elle est déjà calée. Parce que caler 4 invités, il faut s'y prendre à l'avance. Hein. Vous ne pouvez pas faire ça le jeudi pour le vendredi. Hein. C'est pas possible. C'est des gens qui ont des choses à faire. Donc, Bruno, il vient seul. J'ai la ref. Solo. Et l'émission avec Bruno Solo du 8 septembre, elle sera à 17h et pas à 20h. Parce que Bruno Solo, il m'a dit, Sam, t'es gentil. Mais le 8 septembre, il y a France-Nouvelle-Zélande, il y a France All Blacks, il y a le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. C'est à 21h, moi je suis devant le match. Donc t'es gentil, ton émission, tu l'as fait à 17h. J'ai dit, bah ouais, moi aussi j'ai envie de voir le match. J'ai demandé aux autres invités, et tout le monde a dit yes. Et donc, vous pourrez suivre l'Hebdo Etienne, 17h, 20h, en live ou en replay. Et du coup, vous pourrez regarder le match après. Quoi. Alors, est-ce qu'après, il y a un monde où je stream le match d'une manière ou d'une autre en faisant un truc ou pas, je sais pas, peut-être, on verra peut-être. Voilà. Donc voilà pour en tout cas Le Figaro et l'Ukraine. On fait une petite pause parce que je suis en hypo là, je vais me faire un petit peu de sucre, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui et je vous rejoins. On va parler de la situation en Haïti, un reportage mais qui est passionnant dans Libération. Mais le kiff de presse écrite, quoi. Quand je vous dis que la presse écrite, c'est le meilleur média possible. Donc, un reportage de fou sur ce qui se passe en Haïti, qui appelle à l'aide internationale là, pour faire face aux gangs. C'est incroyable. Un truc sur le logement étudiant en France, ça va pas du tout, là. Ça a toujours été la cata, le logement pour les étudiants en France, mais là, c'est pire. Article dans Le Monde, dossier dans l'Humanité. On se penchera sur le grand bond en arrière du bio en France à cause de la hausse des prix de l'inflation, de la semaine de 4 jours qui est en train de se répandre dans certaines entreprises pour séduire les salariés, pour les embaucher, parce que la semaine de 4 jours, j'ai envie de dire, c'est cool. Voilà. Et je sais que c'est TF1 qui a les droits pour le premier match de rugby, là, mais est-ce qu'il n'y a pas de moyen? Et Tourtemiel qui me dit, ouais, mais attention, ne joue pas avec le feu, Samuel. C'est TF1 qui a les droits pour... pour le premier match, le match d'ouverture là. Ouais, je sais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de moyenner? Hein? Est-ce qu'on peut pas genre ne pas mettre les images? Hein? Est-ce qu'on peut pas dire aux gens, bah vous regardez sur TF1, puis nous on va le commenter le match avec peut-être un invité surprise quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moyenner? Ça, il y a le droit? Il y a le droit ou il y a pas le droit? Merci petite Manouine en sucre pour le 17e mois d'abonnement. Il y a le droit, il n'y a pas. Hein? S'il n'y a pas les images, c'est bon. Voilà. Il y a le droit, hein? Bien sûr. Voilà. Il y a le droit, hein? Pour se marrer, quoi. Bon, c'est pas moi qui commenterai, hein? Parce que. Non, en mode Yohan Ryu, exactement, quoi. Il y a le droit, moi, je crois. Hein? Ça doit se. Voilà. Voilà. Bon, on parlera de Goldorak aussi, et puis on fera un petit horoscope que j'ai oublié, que je vais aller vous chercher en direct, parce que Samuel a oublié de prendre une capture d'écran de l'horoscope, ce petit jeu qui nous fait bien marrer. Je vais donc sur le Parisien du jour. On est bien sur le Parisien de ce matin, je vérifie la date. Mardi 29 août, c'est bon. Les chevaux, le hippisme, on s'en fout. Hop, voilà l'horoscope. Petite capture d'écran. Tchac. Tchac, voilà. Quelle gestion, quelle maestria, c'est formidable. Je retourne sur ce qui se passe en Haïti. Ah non, c'est pas là, c'est là. Hop. Ici, tchac. Dans l'Ibé, vraiment ce reportage est passionnant. Je vous mets une petite pause. Voilà, parce que je vais juste aller manger des crocodiles Haribo. J'ai une vie passionnante. Pour me faire un peu de sucre, je vous mets 2 minutes de pause, mais pas plus, je me dépêche. Je vous mets une petite musique, on se retrouve dans 2 minutes avec des crocodiles Haribo dans le sang. Le café c'est bon, c'est et un petit peu d'eau et on lit tout ça. Ok, on fait ça. Hop. Alors où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite, bande de belles personnes. Hop. Tout de suite.
Fake reality. Better days will never come for me.
Top cette chanson. Ok, ce sera la chanson du raid. Ok, je viens de me prendre un missile dans la gueule là, dans le chat. Putain, regardez, il y a Sainte-Justine qui vient me déhonter là. Putain, je vais avoir le moral niqué pour toute la saison. Putain, qu'est-ce que tu mets ici? On est là pour lire les messages gentils, puis aussi ceux qui m'en mettent plein dans. Je viens de prendre un bourre-pif là. Il y a Sainte-Justine qui écrit: bonsoir Samuel et le chat. Point. Déjà. Sainte-Justine, oh non, c'était pas le but. Ouais. Un gros missile dans ta gueule de Samuel Etienne. Je tente. Je lis. Je vais l'épingler. Je l'épingle. Je viens de l'épingler. Je viens d'épingler le message le plus violent que j'ai reçu depuis des mois sur Twitch. C'est parti. Bonsoir Samuel et le chat. Point. Je tente de suivre ta nouvelle manière de stream, mais tu as perdu en authenticité pour entrer dans des codes twitchesques. Verbal et non-verbal. On perd le journaliste et on trouve un animateur lambda avec des codes Jones et une programme Elimelo. On verra sur le trimestre si ça perdure. Putain, c'est comme à l'école, tu sais, quand t'attends ta première note là pour le premier trimestre, tu te dis putain c'est chaud quoi. Mais le changement te marque bien. Te marque bien. Imo, j'apprécie toujours tes revues de presse et la qualité de tes exercices de journaliste. Donc j'en déduis que c'est plutôt sur l'hebdo Étienne et sur ça me plaît, c'est ça. Alors est-ce que ça vous parle? Est-ce que je rentre dans des codes twitchesques? Est-ce que avec des codes jeunes et une programme Elimelo? Et vous avez le droit de le penser, vous avez le droit. Mais par contre, j'ai besoin d'un peu de lumière, d'éclairage. N'hésite pas. C'est un vrai échange, Sainte-Justine. De toute façon, on ne peut progresser qu'avec les critiques. Hein. Donc, s'il y a effectivement des trucs qui ne vont pas, faut dire. Hein. Faut dire. Hein. Explicite et clair. Et peut-être que je vais retirer quelque chose d'intéressant. 8 Studio, merci pour les bits. C'est Yaruki, merci pour le 4e mois d'abonnement. DG Romain, merci pour le 17e mois d'abonnement. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Justine, elle n'est pas là pour coller des gommettes, dit Guigui du forum. J'adore. On voit ce message, il était cool, hein, parce que la personne a dit ouais, mais j'aime bien ta revue de presse et tout. Alors. Eh, hey, soyez critiques, hein. Dites-moi s'il y a des trucs qui ne vont pas. Hein. On n'avance qu'avec les critiques. Hein. Non, mais la personne, elle a le droit de penser ça. Hein. Non. Surtout le méli-mélo, je voulais comprendre, moi. J'aime bien le méli-mélo, moi, parce que l'idée, c'est de créer des passerelles entre les univers. Par exemple, dans l'hebdo Étienne, je reçois des journalistes, et puis des streamers, des youtubeurs, des personnalités. En fait, c'est une volonté, en fait. En fait, ce qui m'intéresse peut-être, c'est que Sainte-Justine est explicite, en fait. Le côté méli-mélo, le côté aussi des tics. Je sais pas si Justine elle a répondu. Au bûcher, dit Tourtemiel, en parlant de moi. Non. Oh, elle est partie, mais fallait pas. Ah, putain, je voulais pas agresser la personne en plus. Ça m'intéressait vraiment. Oh mince. J'espère que je l'ai pas. Je voulais vraiment pas l'embêter. En fait, en vrai, c'est les critiques qui font avancer. Attends, je vais voir si la personne m'a répondu après. En vrai, c'est un vrai truc. Alors, attends. Ah, si, Sainte-Justine est toujours là et dit, vas-y, je peux expliciter, je pensais pas déclencher cette réaction. Bah si, quand t'écris un message dans le chat, c'est pour que je le lise. Voilà. Allez. Bon, je suis content que ce soit pas parti déjà. Bon, je le désépingle déjà. Je sais même pas comment on désépingle. Hein. Si, je sais. Voilà. Ah, voilà. Bah oui, je sais que c'est compliqué de répondre dans un chat. On a la réponse de Sainte-Justine. C'est un petit peu dur de répondre dans un tel chat. Ah bah oui, c'est animé, hein. Et c'est beau de voir la réaction de la commu. Bon, ça c'est normal, c'est classique. Hein. Je pense que je me suis mal exprimé. Je le répète, c'est un point de vue de mes 32 ans. En te connaissant surtout à la base pour Question pour un champion et avoir découvert tes autres streams, effectivement, je vois un petit changement depuis le temps, mais c'est tout à fait normal. C'est plutôt du constat que du jugement. Mais je l'entends bien. Mais en vrai, ça m'intéresse en fait. Ça m'intéresse en fait. Voilà. Parce que moi, j'ai pas le. Mais je peux me tromper. Moi, de mon côté, j'ai pas l'impression d'une évolution. Bon, déjà, l'hebdo Étienne, c'est une deuxième saison. Pas grand-chose qui change. Toujours un peu le même concept. Les revues de presse, je pense que je dis de plus en plus de conneries, mais c'est parce que c'est mon vrai moi. Voilà. Ici, c'est la liberté par rapport justement à des médias plus encadrés quand tu travailles dans une rédaction ou que tu engages l'image des gens qui travaillent avec toi à la rédaction, voire de ta chaîne. Donc tu dis pas n'importe quoi. Ici, tu fais ce que tu veux puisque t'es chez toi. Donc c'est plus le vrai moi. Je pense pas avoir beaucoup changé en fait. Ouais. Bon, en tout cas, ça m'intéresse. Justine, si tu veux expliciter certains trucs, notamment l'aspect méli-mélo, tout ça, ça m'intéresse. En vrai de vrai, tu m'envoies un DM sur Twitch, sur Twitter, je le lirai avec vraiment beaucoup de plaisir. Allez, on parle de la guerre des gangs parce que ça fait bien flipper. Ça se passe en Haïti. Dans l'enfer des gangs, reportage à Port-au-Prince, c'est l'envoyé spécial de Libération qui écrit ça, où, alors moi je ne savais pas que la situation était aussi critique, où la population est livrée à la violence, à la faim, aux maladies, impuissant face au chaos. L'État haïtien demande une intervention armée américaine. Des quartiers entiers de Port-au-Prince sont aux mains de groupes armés qui pratiquent notamment les enlèvements. Paralysant l'économie et envenimant la situation sanitaire, l'État impuissant appelle à une intervention de la communauté internationale. On va se pencher sur cet appel à la communauté internationale, mais on va surtout essayer de comprendre ce qui se passe. En tout cas, merci pour tous les gentils messages que je lis là en ce moment. Posté au milieu d'un carrefour du centre-ville de Port-au-Prince avec son mégaphone, Jean-Édouard, c'est un reportage, depuis quelques minutes, ce trentenaire harangue les passants en criant « 60 personnes ont été tuées ou blessées ». Par un gang, 60 personnes. Dans notre quartier de Carrefour-Feuille, hier après-midi, la police n'a rien fait pour nous protéger. Exigeons des comptes à ce gouvernement d'incapables. Hurle ce monsieur. Une jeune femme, Wilda, 19 ans, avec son bébé, des coups de... raconte ce qui s'est passé dans son quartier. Des coups de feu ont subitement éclaté. Des voisins ont fui en dévalant les rues. J'ai attrapé mon fils, je me suis mis à courir aussi derrière nous. Le gang tirait au hasard sur la foule, incendiait les maisons, massacrait les gens. À coups de machette, c'était un carnage. Une jeune femme de 18 ans qui raconte ça, 19 ans. L'attroupement créé par Jean-Édouard, là, qui a lancé la manif grossie à vue d'œil, raconte Théophile Simon, qui est l'envoyé spécial de Libération à Haïti. Plus d'une centaine de rescapés de ce quartier de Carrefour-Feuille hurlent maintenant leur désespoir. La petite foule s'ébranle en direction du quartier des ministères en agrégeant les colères au fil des rues. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes fondent bientôt sur le cœur de la capitale haïtienne. Quelqu'un me dit... Les citoyens font justice eux-mêmes là-bas à cause de ça. Thunderhorn, on va en parler. Franz, commerçant de 52 ans, explique à l'envoyé spécial de Libération. Voilà des mois que la situation est hors de contrôle. Des groupes armés envahissent des quartiers entiers en tuant à l'aveugle. Pourquoi l'État ne fait rien ? Par-delà les toits, à moins de 2 km, d'impressionnants panaches de fumée lèchent les collines de Carrefour-Feuille. Dans sa folie meurtrière, le gang... Après les agressions contre les habitants, on voit une image d'ailleurs là. Le quartier de Carrefour-Feuille, il est là, regardez. Le gang a incendié le quartier. Des coups de feu claquent non loin du brasier. Des centaines d'habitants continuent à fuir la zone et se déversent dans le centre-ville. En deux jours, 10 000 personnes ont ainsi fui leurs habitations. Le monde doit nous aider à nous débarrasser des gangs. Dit le commerçant qui a été interrogé à l'instant. Sa complainte pourrait bientôt être entendue. Répondant à la demande du Premier ministre Ariel Henry, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer dans les prochaines semaines sur l'envoi d'un contingent armé pour appuyer la police haïtienne dans la lutte anti-gang. C'est cette dernière qui a mené jusque-là une véritable bérésina, profitant de la faiblesse des forces de sécurité et du vide politique créé par... Parce que tout ça, les racines de toute cette violence, elles sont anciennes. Créé par l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Et après l'assassinat du président, eh bien, plus d'une centaine de gangs armés, c'est fou, hein, ont pris d'assaut la capitale et plusieurs villes. Depuis janvier, ces violences ont, selon l'ONU, occasionné la mort de moins 2439 personnes. Alors, Libération donne une tentative de comparaison. Environ deux fois le nombre de victimes civiles ukrainiennes recensées par l'ONU sur la même période. Environ 80% de la superficie de Port-au-Prince échapperait au contrôle de l'État, 80%, tout comme la plupart des grands axes routiers irriguant les campagnes. Résultat de ce chaos sécuritaire, l'économie haïtienne se retrouve paralysée et devra enregistrer la cinquième année consécutive de recul du PIB. Cette asphyxie économique se paie en vie humaine. Ces morts-là sont au moins aussi nombreuses que celles causées par les balles des gangs, on parle de la pauvreté donc, prévient un docteur qui est le directeur de l'hôpital Fontaine à Cité-Soleil, qui est le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Alors, imaginons qu'il y ait une intervention militaire internationale. En cas de feu vert de l'ONU, une force multinationale débarquant en Haïti aura donc pour première mission de reprendre le contrôle des infrastructures, des routes. Selon un ancien chef des forces spéciales haïtiennes, cette partie du cahier des charges devrait être plutôt facile. Les difficultés viendraient ensuite. Si l'objectif est de faire la peau aux gangs, alors il faut envoyer des centaines de policiers d'élite dans les bidonvilles pour aller les chercher, les bandits, un par un. C'est illusoire, à moins d'occasionner des dommages collatéraux considérables parmi les civils, explique un militaire. Et en plus de cet obstacle tactique, et quelqu'un en parlait dans le chat tout à l'heure, une autre menace plane sur une potentielle intervention étrangère, celle de transformer une opération anti-gang en un gigantesque lynchage extrajudiciaire, c'est-à-dire hors de tout cadre judiciaire, hors de tout procès. Le mouvement d'autodéfense Bois Pelé, Bois Calé en créole, déclenché fin avril, on a offert un saisissant aperçu. Là, vous avez un exemple qui est raconté par quelqu'un qui a participé à ça. 14 membres d'un gang à l'intérieur d'une fourgonnette ont été interceptés par un barrage de police. C'est Gabriel, un informaticien, qui raconte la scène. Ça s'est passé en plein cœur de Port-au-Prince. La police a mis le véhicule en joue, a ordonné à ses occupants de s'allonger sur la chaussée, les mains sur la tête. Un attroupement de riverains s'est formé autour de la scène. J'en étais, dit cet informaticien. Tout à coup, un homme a empoigné un gros rocher, s'est approché et a fracassé la tête de l'un des interpellés. La foule s'est alors jetée sur les 13 bandits restants et les a massacrés. La police n'a rien pu faire. L'informaticien raconte « Certains passants avaient des machettes. J'en ai moi-même saisi une et je me suis acharné sur l'un des types. » On a ensuite brûlé les bandits en pleine rue, même si plusieurs d'entre eux étaient encore vivants. « Je n'aurais jamais pensé être capable d'une chose pareille, » dit-il. L'épisode qui a été filmé, qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, a provoqué un électrochoc dans le pays. Pendant 2 mois, les lynchages sauvages se sont multipliés, occasionnant la mort de plus de 310 personnes suspectées de faire partie de gangs, la mort de 46 civils aussi. La peur a changé de camp, le nombre de kidnappings a été réduit à néant. Ça a fonctionné un temps, mais le chaos est désormais de retour. On est sur un pays, une île, Haïti, qui a feu et à sang, quoi. C'est fou, hein. Ouais, incroyable. Voilà. Donc là, voilà. Donc je dis merci à Libération, malgré l'horreur de ce qui est décrit, parce qu'en fait, moi, j'ai pas vu beaucoup de médias me parler de la situation en Haïti ces derniers mois, quoi. Vous vous rendez compte? Les scènes, quoi. C'est fou. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura intervention internationale? Ce qui est sûr, c'est que si cette intervention internationale est décidée au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, la mission sera extrêmement difficile, quoi. Il y a Nuki qui dit contre ce camp Samuel, c'est toi les médias. Je suis les médias. Donnez-moi le salaire qui va avec, s'il vous plaît. Ça veut rien dire, les médias. BFM, Le Monde, CNews, TPMP, Libération, La Croix, Twitch, c'est un média. Ça veut rien dire, les médias. Ça veut rien dire, en fait. C'est justement ce que j'essaie de vous expliquer ici, en fait. Chaque média a une certaine qualité, une certaine rigueur, ou pas. Voilà. Il faut choisir les bonnes sources, justement. Donc je ne suis pas les médias, la preuve, Libération est un média et parle d'Haïti et beaucoup de médias n'en parlent pas. Évidemment, mais ça c'est évident. Ça c'est très embêtant ça. On revient en France, c'est un truc vieux comme le monde, mais c'est la situation encore plus grave qu'avant. C'est la question du logement étudiant en France, qu'on a fait le sommaire tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de réactions parce que je crois que beaucoup étaient concernés. En plus on est pile poil dans le moment où là certains cherchent désespérément un logement étudiant en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Will Pietrak, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Mais il n'y en a vraiment pas assez. Il en manque, si j'ai bien lu l'article, dans Le Monde et dans l'Humanité, 250 000. Il manquerait, j'espère que je ne me suis pas gouré sur le chiffre, 250 000 logements étudiants en France. Ils vont où les étudiants? Bon, on va essayer de comprendre ça. Logement étudiant, où dormira ma fille à la rentrée? Se demande une maman. Face à la hausse du nombre d'étudiants et la pénurie de logements, la recherche d'un toit devient un parcours du combattant. Pourquoi c'est encore plus grave qu'avant? Parce qu'il y a plus d'étudiants qu'avant, le chiffre augmente régulièrement, et il n'y a pas plus ou autant que le logement d'avant, il y en a moins. On va comprendre pourquoi il y en a moins. Plus d'étudiants, moins de logements. C'est parti. On a beaucoup de témoignages, de reportages. Elle a revu tous ses critères à la baisse, le confort de l'appartement, son emplacement. Elle a augmenté le budget pour le porter à 700 euros, 200 euros de plus que prévu. À un mois de la rentrée, Agnès recherche désespérément un logement pour sa fille étudiante qui va rentrer en master à Lyon à la fin du mois de septembre. Après avoir postulé pour plus de 50 logements, elles n'ont toujours pas obtenu une visite, une simple visite. Imaginez la détresse des gens, quoi. Une maman et sa fille qui cherchent un logement, voilà. Elle, 50, elle a postulé pour 50 changements, elle n'a même pas obtenu une visite. Une visite. Elle dit on devient obsessionnel. Je passe mon temps à regarder s'il y a de nouvelles annonces, à vérifier mes mails pour savoir si j'ai des réponses. Je ne dors plus la nuit, dit cette mère. J'ai même postulé à une offre à 2h, 2h du mat, en me disant qu'à 7h, on serait moins nombreux à répondre et que ça augmenterait mes chances. Mais les appartements partent à toute vitesse, on arrive toujours trop tard. Explique cette maman qui est cadre. Sa fille qu'elle élève seule reçoit une bourse, mais elle n'a pas eu de place en résidence universitaire car le Crous est archi plein. C'est l'une des raisons du problème. En panique, Agnès a envisagé un Airbnb ou un appart-hôtel pour les premières semaines de cours, mais ce n'est pas possible. En termes de prix, ça revient à 1500 euros. Donc, je ne sais pas où ma fille va dormir à la rentrée. Les chiffres. Le nombre d'étudiants a bondi de 200 000 en France entre 2018 et 2022, c'est énorme, pour atteindre 2,95 millions, alors que l'offre de logement qui leur est dédiée est structurellement déficitaire et même a plutôt tendance à baisser. On estime donc, c'est un rapport d'information du Sénat qui le dit, qu'il manque 250 000 logements étudiants en France pour répondre à la demande. S'ajoute cette année la crise du logement dans le parc privé, alors que la hausse brutale des taux d'intérêt a freiné l'accès à la propriété. Il y a moins d'appartements qui sont libérés cette année à l'issue de l'année scolaire fin juin. Début juillet, entre 20 et 30 personnes par jour passaient à l'agence, raconte Guillaume de Vergy, qui est responsable d'une agence immobilière à Rennes. 20-30 personnes par jour. Un agent qui raconte que certains parents sont prêts à mettre 600 euros ou 700 euros par mois pour un T1 ou un petit T2 à Rennes. Un prix aberrant, dit-il. Avant le Covid, on était plutôt à 300-350 euros. Dans cette course à l'appartement, la prime va aux familles les plus à l'aise financièrement. En juillet, deux familles qui avaient poussé la porte de l'agence pour louer n'ont pas trouvé. Du coup, elles ont acheté. Voilà. Évidemment, il faut les moyens. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande peut entraîner des excès de zèle de la part de propriétaires bailleurs en position de force. Étudiant à Poitiers, âgé de 20 ans, Enzo évoque des critères exotiques de certains propriétaires. J'ai eu le droit à des impératifs du style « moi, je n'accepte que les étudiants de médecine » ou à l'obligation de prendre le logement durant 3 ans. Ça, c'est dingue, ça. Ou d'être déjà étudiant sur Poitiers. Ou encore l'interdiction d'être en couple. Voilà. Certains m'ont demandé le nom de famille de mes garants avant de commencer toute discussion. Waouh. Certains m'ont demandé le nom de famille de mes garants avant de commencer toute discussion. En mode, si jamais le nom de famille des garants a une consonance un petit peu étrangère, il n'y a même pas de début de discussion. J'adore. Autre écueil, les arnaques. Les signes de petites annonces, c'est vraiment un bordel monstre ce truc. Les sites de petites annonces et les groupes Facebook de recherche de logement où se rendent les étudiants et les parents parfois désemparés constituent des terrains de chasse privilégiés pour les escrocs. Un classique, se voir demander un mandat cash de 1300 euros pour sécuriser une demande avant d'avoir visité, évidemment, l'appart n'existe pas. Les étudiants au budget serré peuvent se tourner vers les résidences universitaires du Crous, mais les places manquent. Fou la frousse! Merci pour ce très gentil raid à l'instant. Merci de nous rejoindre. On parle du manque de logements étudiants en France. Merci pour ton raid. Merci de nous rejoindre. Les places en Crous manquent. On dénombre 174 000 places en résidence universitaire en Crous, voilà, dont une partie indisponible car en cours de rénovation. Voilà. Donc 174 000 places, dont une partie qui n'est pas disponible, alors que la France compte plus de combien ? 720 000 boursiers. Voilà. Merci encore Fou la Frousse, je suis en train de regarder ta page et désormais je te suis. Merci à toi. On continue, après je vais vous lire parce que je suis sûr que certains sont concernés. Parmi les recalés, par exemple Axel, 21 ans, qui est en dernière année de master en économie à Bordeaux. D'un côté, je ne suis pas suffisamment boursier pour recevoir les logements Crous, ils sont réservés aux échelons les plus élevés et moi je ne suis que échelon 3, mais de l'autre mes parents ne gagnent pas suffisamment pour que mon dossier soit accepté par une agence et le parc privé mais inaccessible, des revenus familiaux qui ne permettent pas de se loger dans le privé, une bourse mais un échelon pas assez élevé pour avoir un accès au logement du Crous, pas de logement quoi. Autant de difficultés redoublées pour les étudiants étrangers, n'en parlons pas s'ils ne sont pas prioritaires. Qui souvent n'ont pas de garant, qui n'ont pas les papiers administratifs demandés, etc. etc., etc. quoi. Confrontés à la rareté des biens et à des loyers élevés, nombre d'étudiants et de parents doivent, du coup, alors ça c'est les conséquences de tout ça, se résoudre à des sacrifices, rognant les budgets quotidiens, acceptant des logements plus petits qu'espérés, en moins bon état, éloigné du lieu de formation. Voilà. Par exemple, Solena, lorsqu'elle a été prise en licence de sciences sociales à Paris, a constaté que à Paris, à moins de 600 euros par mois, on ne peut pas avoir un meublé de plus de 12 mètres carrés, des toilettes, bon, ça sera sur le palier, une salle de bain, une fenêtre, et ne pas être dans un quartier en tension ou en étant à moins de 50 minutes de la fac. Donc, quand je résume, pour moins de 600 euros par mois, tu n'auras pas plus de 12 mètres carrés, tu n'auras pas de fenêtre, tu n'auras pas de toilettes. Voilà, tu seras dans un quartier un peu chaud et tu seras loin de ton école. Eh ben, super condition d'études. Voilà. D'ailleurs, elle le dit, c'est honteux de devoir étudier dans des conditions pareilles. Tu vois, il y a Renette qui dit, j'ai eu 13 mètres carrés pendant plusieurs années mais ça m'a semblé tellement normal. Ben, il ne faudrait pas, en fait, que ça puisse sembler normal. Alors, la situation dépend beaucoup des villes, hein. Voilà. Par exemple, il y a South Massalia qui dit, sincèrement, je ne comprends pas cette difficulté. J'ai fait 4 appartements étudiants et je n'ai jamais eu de problème pour les trouver. En fait, ça dépend vraiment des villes. Il y a des villes où il n'y a aucun problème de tension. Je crois que l'article prend un exemple, Limoges. Limoges, pas de souci. Mais dans d'autres villes, Paris, Lille, Aix, Montpellier, c'est no way. C'est no way, quoi. Alors, résultat, ben, parfois, en fait, l'étudiant ou la famille de l'étudiant dit, ben, tes études, tu les feras pas dans cette ville. Donc, ok, le meilleur cursus pour cette étude, tu es pris d'ailleurs. Bravo, t'as passé Parcoursup, tu es pris dans cet excellent cursus dans cette ville, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. On peut pas payer. On peut pas payer. Voilà, on en vient à la conséquence de ça. La maman, une maman qui s'appelle Sophie, qui est mère de 3 filles, dit, nous avons interdit à nos enfants de postuler dans des villes comme Paris, comme Marseille. C'est trop coûteux. Voilà. Sandrine, une maman dont le cadet a choisi une école en fonction, non pas de ses vœux, mais de la ville. Voilà. La famille qui vit près de Pau n'a pas les moyens de financer des études à Paris, à Lille, à Aix-en-Provence, à Montpellier, où le jeune homme avait identifié les écoles où il voulait aller. Une manière de rappeler que l'égalité des chances passe aussi par l'accès au logement. Et ça nous emmène au dossier de l'Humanité qui dénonce ça en salut. Avant de lire le dossier de l'UMA, qui nous apporte d'autres infos, je vais vous le dire, je vais remercier Sediomi pour le 3e mois d'abonnement. Alors, à Paris, c'est une folie. Alors, je... Voilà. Tourte-miel, perso, j'ai refusé un diplôme de fou à Paris juste pour cette raison. Kiloax, le sujet n'est pas que français manifestement. Après, le marché immobilier dit-tu devient fou dans la plupart des grandes villes attractives d'Europe. Je vis à Copenhague, je ne vous parle pas des prix des loyers. Malheureusement, personne n'a l'air de savoir que faire pour inverser la tendance. Ah bah justement, l'Humanité va proposer des solutions. Je suis à Nice, c'est l'horreur, me dit Astral. Alors, vous êtes plusieurs à évoquer les Jeux Olympiques de Paris qui ne vont pas arranger la situation. C'est vrai. Et d'ailleurs, les articles, je ne sais plus si c'est Le Monde ou c'est l'Humanité, en parlent effectivement. Plus du problème de Airbnb dont on parle dans un instant. Airbnb qui casse le marché d'y être. On va en parler parce que c'est vraiment ça joue notamment dans les villes un peu touristiques, ouais. Voilà. Alors évidemment c'est un autre aspect aussi de ce sujet qui est évoqué par Oli c'est le fait qu'en plus les étudiants sont en concurrence avec une autre partie de la population qui cherche ces petites surfaces en fait. Il y a une énorme demande pour les petites surfaces, studio T1, T2, voilà. Et il n'y a pas que les étudiants, il y a les jeunes actifs aussi. Par exemple, il y a Oli qui dit « Je suis cadre, je vis seul, je galère à trouver un appart vivable à Paris, je suis à 1h20 de mon lieu de travail. Voilà. » Lisons le dossier de l'Humanité, on va en apprendre un petit peu plus. Faute de logement, j'ai renoncé à mes études. Prix prohibitif, rareté des liens, insalubrité. La quête d'un logement relève du parcours du combattant pour des dizaines de milliers d'étudiants. Mission quasi impossible. Bon, ça dure depuis des dizaines d'années, hein, mais c'est de pire en pire. La difficulté des étudiants à se loger n'est pas une nouveauté, mais cette année, le déficit de logements abordables semble être encore plus important. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse de l'offre. Côté bailleur, on met en avant les nouvelles règles en matière d'isolation thermique qui prévoient d'interdire à partir de 2025 la mise en location des logements les plus mal isolés. Donc vous avez des logements qui sont retirés du marché parce qu'ils sont plus aux normes. Nous allons faire face très vite à une pénurie de biens à la location. La rentrée de septembre risque d'être difficile, explique un porte-parole de la Fédération nationale de l'immobilier. Donc il y a... les nouvelles normes d'isolation. Il y a la hausse des taux d'intérêt qui, en suscitant le report de nombreux projets d'accession à la propriété, contribue à l'embolie dans le secteur locatif. Hein. Des gens qui ne peuvent pas acheter parce que les taux d'intérêt remontent, c'est des gens qui restent en location. Donc des logements qui ne sont pas proposés à d'autres candidats à la loc. Okay. Et puis, encore un facteur, un des facteurs essentiels de la raréfaction de l'offre, c'est le développement d'Airbnb, explique Manuel Domer, qui est directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. En mai 2022, 500 000 logements étaient proposés sur la seule Airbnb. En grande majorité, des studios des deux pièces, soit précisément le type de bien que recherchent les étudiants. Il y a 500 000 logements sur Airbnb, hein, essentiellement des studios des deux pièces, et il y a 250 000 étudiants qui ne trouvent pas de logement. Je dis ça, je dis rien. On cherche des solutions. Bon. Les effets de cette réduction de l'offre sont d'autant plus dramatiques qu'ils s'ajoutent à une crise structurelle. Je pense qu'il y a des propriétaires d'Airbnb là, en sueur dans le chat. Levez la main, les propriétaires d'Airbnb. Là. Les effets de cette réduction de l'offre sont d'autant plus dramatiques qu'ils s'ajoutent à une crise structurelle. Ça fait des années que le nombre d'étudiants augmente en France sans que rien ne soit fait pour adapter le nombre de logements. Le problème, c'est que sur le marché des petits logements dans les grandes villes, il y a beaucoup de monde. Vous vous rappelez tout à l'heure la personne qui est cadre dans le chat, qui était à genre 1h20 de son boulot, quoi. Sur le marché des petits logements dans les grandes villes, il y a beaucoup de monde. Les étudiants se retrouvent en concurrence sur le segment du marché locatif le plus déficitaire et le plus cher, celui des 1 ou 2 pièces, qui est aussi convoité par les jeunes actifs, quoi. Mais ce qui explique l'ampleur de la crise, conclusion de l'Humanité et amorce de réflexion sur ce qui pourrait être fait. Ce qui explique l'ampleur de la crise, c'est l'absence d'investissement de l'État. En 2022, il n'y avait que 33 000 logements à caractère social destinés aux étudiants pour 700 000 boursiers et près de 3 millions de personnes dans l'enseignement supérieur. Résultat de ce manque, entre 1960 et 1922, les chiffres sont incroyables. Entre 1960 et 2022, la part d'étudiants logés dans les CROUS est passée de 35% à 6%. De 35% à 6%. Vous vous rendez compte ? En 1960, la part d'étudiants dans les CROUS, 35%. 2022, 6%. Petit problème d'investissement. En 2017, le président Macron avait promis de s'atteler à ce déficit avec la création de 60 000 nouveaux logements étudiants. On en est loin. En octobre 2021, 36 000 nouvelles places avaient été construites. Mais sur ce nombre, 9 800 seulement étaient en CROUS ou en logement social. Voilà. Allez, je vous lis vos réactions. D'ailleurs, c'est la conclusion de l'édito de Stéphane Sahuc dans l'UMA, je vous le lis là. Oh, j'ai loupé le raid. Merci Pascal OUTV. Oh, merci, vous êtes trop gentil, encore un joli raid. Merci Pascal OUTV pour ce raid à l'instant. On est en train de parler du problème du logement étudiant en France. Fin de l'édito de l'UMA, je vous lis. La résolution du problème du logement étudiant ne peut venir que d'une politique nationale. Construction de résidences universitaires. Obligation d'un quota de logements étudiants dans les constructions d'immeubles neufs. Encadrement des loyers. Augmentation du nombre et du montant des bourses, encadrement du locatif saisonnier, allocation d'autonomie pour les jeunes, pour des dizaines de milliers de personnes, c'est leur avenir qui se joue, c'est aussi celui de notre pays. Quelqu'un me disait dans le chat, il n'y a pas de bonnes nouvelles, sinon dans l'actu. Non, il y a pas mal de mauvaises nouvelles souvent, mais aussi il y a des solutions parfois au problème. Donc c'est je trouve que ce dossier de l'humanité, il est intéressant, il est complet parce qu'il montre l'étendue du problème et aussi quelque part ça propose des solutions, quoi. Je vous lis. Ne parlons pas des jugements pour les situations, pour les étudiants en situation de handicap, me dit Régala. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ah bien sûr, Yggdrasil, tu as raison de le souligner, je voulais le dire, mais tu le dis à ma place. Combien d'étudiants en 1960 versus 2022? On a eu une explosion des nombres d'étudiants dans le supérieur, bien sûr, en France, mais ça n'a pas été suivi par l'offre en crous et en logement, quoi. Donc, à un moment, quand tu sais que le nombre d'étudiants explose, mais que tu n'accompagnes pas cette explosion sur le plan du logement, tu sais qu'à un moment, il va y avoir crise. Une des responsabilités des politiques, c'est l'anticipation, hein. Petite annonce de Capitaine Balou. S'il y a des gens qui louent un appart T2, de préférence à Poitiers, je suis chaud. Capitaine Balou, B-A-L-A-U. L-O-U. Balou, attaché. Si quelqu'un est à Poitiers et connaît un plan pour un appart. Si jamais ce stream aurait pu permettre de trouver quelqu'un, à quelqu'un de trouver un appart, ce serait cool. Ouais. Bon. Moi, je vous disais tout à l'heure, je radote, un de mes premiers articles de jeune journaliste, c'était c'était pour Ouest France, c'était sur le logement étudiant à Rennes, et le titre, genre que j'ai écrit il y a 30 ans, c'était « Trop peu, trop cher », c'était il y a 30 ans. Voilà. Allez, le bio, ça va pas du tout. Le bio, ça va pas du tout, on est revenu 5 ans en arrière, qu'est-ce qui se passe? C'est la une des Échos. Au début, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre ce truc ». Et ouais, en fait, c'est le grand bond en arrière du bio en France. Qu'est-ce qui se passe, ma bonne dame? En fort recul depuis le début de l'année, les ventes sont retombées au niveau de 2018. Les grands distributeurs réduisent leur offre de bio. Les magasins spécialisés souffrent et se concentrent. Les agriculteurs estiment que l'aide de l'État n'est pas à la hauteur. Vous l'avez peut-être deviné, hein, c'est la hausse des prix, c'est l'inflation en fait. Le bio, c'est plus cher que les produits classiques. Du coup, les Français, pour faire des économies, ils ont taillé dans leur consommation de bio. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, hein, pour la santé et puis aussi pour les producteurs de bio. Spirale infernale, donc, disent les Échos. L'inflation plombe le pouvoir d'achat des consommateurs et les ventes, du coup, de produits bio. Le bio s'enfonce toujours plus dans la crise. L'inflation dans les rayons, qui ponctionne le pouvoir d'achat des consommateurs, continue de plomber les affaires de la filière. Les prix de ces produits restent environ 50% plus chers, c'est énorme, que les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Les Français délaissent donc le bio. Le bio figure parmi les premières victimes de la déconsommation engagée par les foyers. On s'est penché il n'y a pas si longtemps sur la baisse des achats alimentaires des Français, hein, en volume. C'est-à-dire qu'ils achètent moins, hein, ils mangent moins, hein, avec certains Français qui se privent de repas. Hein, et on a des enquêtes là-dessus aujourd'hui devant la hausse des prix de l'alimentaire. Voilà. Donc le bio a pris très cher. Ça représente quoi? Ça représente une baisse en volume de 13% des ventes de bio. Voilà. On revient au niveau du marché de 2018. Un autre phénomène tire le bio vers le bas, autre que la hausse des prix, c'est intéressant, la réduction de l'offre et des références proposées aux clients. Parce que comme les ventes diminuent, eh bien les distributeurs réduisent leur nombre de références proposées en rayon. Hein. Comme tu en vends moins, bah, tu proposes moins de ref. Et le problème, explique un spécialiste, c'est que dans les produits de grande consommation, c'est parfois l'offre qui fait la demande. C'est parce que tu vois les produits en rayon que tu les achètes. Et du coup, cette demande, elle est amoindrie quand les artis disparaissent des rayons. Vous, c'est votre cas, vous ? Il y a des gens qui consomment du bio, qui en consomment moins aujourd'hui ? Et à François qui estime qu'il faudrait taxer fortement le conventionnel et subventionner le bio pour que ce soit moins cher que la bouffe chimique. Non, c'est pas nouveau, me dit Borca, que la qualité, la diversité de l'alimentaire, c'est pour les plus riches. Du côté de Lilou Larennaise, on va directement chez les maraîchers bio de Lucoin et c'est bien moins cher qu'en grande distribution. Il y a Jolioc qui m'interroge, comment ça, il y a des effets positifs avérés pour la santé du bio ? Et ta question, Jolioc, c'est est-ce que un produit alimentaire sans produits chimiques, c'est meilleur pour la santé qu'avec produits chimiques ? C'est, en vrai, c'est, je suis un peu ironique. Jolioc, tu es en train de me demander si un produit alimentaire sans produits chimiques, c'est meilleur pour la santé qu'avec produits chimiques ? Je suis pas un grand scientifique, mais je dirais oui. Comme ça, au feeling, quoi. Au feeling, hein. Non ? Il y a débat ? Comment ça, il y a débat ? Moi, je suis là pour apprendre, hein. Racontez-moi. Alors, parfois, les parcelles de bio sont juste à côté des conventionnels, donc parfois, il y a quand même des produits chimiques. Ok, merci Joe. Ananas. Je vous lis. Moi, je suis là pour apprendre. Le bio est bourré de pesticides. Bah alors, c'est pas du bio alors. Oh, je comprends rien. Je vous lis. Il y a des pesticides dans le bio aussi. Alors, dites-moi qu'il y en a moins quand même. Sinon, ça sert à rien alors. C'est intéressant là. Je mets le doigt sur un sujet que je maîtrise pas. Il faut reconnaître quand on maîtrise pas un sujet. Hein. Là, c'est le cas. Merci Portugaise pour les beats. Ok. Rembrandt m'a savé, dit ouais, il y a débat, on n'a pas prouvé que c'était meilleur pour la santé. Ok. Bon, alors c'est rassurant pour ceux qui n'en mangent pas trop, alors. Oh, attends, ça m'intéresse ce sujet. Il y a des produits chimiques dans le bio, il y en a juste beaucoup moins que le reste, me dit Kartak. Là, j'apprends des trucs, là. Ah, il y a Nini la curieuse qui me dit non, il n'y a pas de pesticides de synthèse dans le bio. Okay. Alors, net précise, voilà, on avance, vous voyez, l'info augmentée. Dans le bio, tu as des produits pesticides autorisés qui sont censés être moins nocifs. Il y a Sagamo qui dit s'informer dans un chat Twitch, bien sûr, évidemment. Il y a des gens ici qui maîtrisent leur sujet, il y a des gens qui sont de bonne foi et qui ont bossé sur des sujets et qui sont informés et qui partagent les informations, bien sûr. Pourquoi dans le chat, il n'y aurait pas de bonnes infos ? Il faut juste prendre ça avec prudence, essayer de comprendre. Mais là, vous titillez mon attention, ma curiosité sur un sujet, là. C'est intéressant. Ok. Bah, j'aimerais bien trouver un dossier là-dessus un jour. Mais j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu d'article de dossier, je dis la presse quotidienne nationale tous les jours, qui évoque ça. Ok. Eh ben, vous avez allumé une petite. Je me suis allumé une petite alarme. Je vais essayer de trouver des trucs là-dessus. Deux sujets, Goldorak et la semaine de 4 jours. Putain, pardon. Mes enfants, ils disent que je dis trop ce mot. Ils m'engueulent à chaque fois. Putain, mais c'est le. C'est le rêve. La semaine de 4 jours. Lundi, imagine, t'arrives, petit week-end bien cool et tout. Et hop, t'attaques. Lundi, mardi. Putain, t'es au milieu de la semaine. Lundi, mardi. Punaise. Voilà, je vais remplacer par punaise. Lundi, mardi. Punaise, t'es au milieu de la semaine. Mardi, t'es au milieu de la semaine. Mercredi, jeudi. Jeudi soir, t'es en week-end. VSD, vendredi, samedi, dimanche, la semaine de 4 jours, un appât à diplômer. Les entreprises se servent de ça pour attirer les salariés dont ils ont besoin. En proie à des difficultés de recrutement, certaines entreprises proposent de travailler un jour de moins. Mais yes, semaine 4 jours, elle est où la douille ? Demande à Alastair. Ah, va voir ça. Alors c'est pas pour tout le monde, vous allez voir. Un nouveau verbe fait fureur parmi les employés d'Accenture. Depuis le 1er juin 2022, la boîte de conseil permet de flexer. Flex. Je flex, tu flex. Un jour de la semaine. C'est marrant parce que je pensais que ça voulait dire autre chose, moi. Clémentine, 27 ans, embauchée en janvier, flex son vendredi. Ce jour-là, je ne travaille pas, je profite de ma famille, je fais du sport, c'est un vrai atout. Tu m'étonnes. Si elle le souhaite et sans perte de salaire, l'ingénieur d'études diplômé de l'EMBA Business School peut organiser sa semaine de travail sur 4 jours sans perte de salaire. Quand je flex mon vendredi, je sais que je vais démarrer la semaine avec une autre énergie. Parce que je sais que j'aurai un week-end de 3 jours, tu m'étonnes. Maintenant que j'y ai goûté, je pourrais difficilement basculer sur un mode de travail plus conventionnel. Rebaptisé semaine flexible, le dispositif fait figure d'appât pour des milliers de jeunes diplômés recrutés par l'entreprise de conseil chaque année. Ils s'approprient le dispositif comme ils le souhaitent. On a des serial flexeurs qui optent systématiquement pour la semaine de 4 jours, mais aussi des employés plus prudents qui le font moins fréquemment. Certains prennent leur vendredi, d'autres pas. Tous sont ravis grâce à la semaine flexible. On reçoit de plus en plus de candidatures spontanées, dit la DRH. Promesse de bouleversement de notre rapport au travail, la semaine de 4 jours est devenue l'argument roi des entreprises soucieuses d'attirer les talents. Et ce n'est pas toutes les boîtes. La rareté de ces derniers, donc on va dire les salariés les plus recherchés ou certains diplômés, la rareté de ces derniers, près de 30% des entreprises ayant des difficultés à recruter, rend l'idée affriolante. J'adore. The Voyageur. Portugais, merci pour les bits. De la fonction publique à la réhabilitation du bâtiment, en passant par les boîtes d'audit, d'informatique, les médias, la semaine de 4 jours fait fureur dans tous les secteurs. Portée par l'intensification des cas de burn-out et l'impression d'une éruption de plus en plus forte de la vie professionnelle dans le quotidien avec la génération des outils numériques, après avoir refait surface dans les secteurs en tension comme l'hôtellerie ou la restauration, la semaine de 4 jours intrigue désormais la plupart des grandes entreprises destinées qui visent à attirer les jeunes diplômés. C'est cool, hein. Avec Cletus Braille qui dit « Moi, je suis en 4-5, hein. C'est un bon plan, surtout que tu commences à te détendre le vendredi avant de vraiment commencer et profiter du week-end. » Quand on comprendra, dit Murphs, que la prochaine avancée sociale sera réduire le temps de travail pour plus profiter de la vie, bah oui, qui le dis-tu ? Manuel Malot, qui est directrice carrière et prospective de l'école de l'EDEC, évoque une révolution sociétale. Elle a piloté, cette dame, une étude sur le rapport au travail des jeunes diplômés des grandes écoles. Et, oh, surprise, non, pas du tout, la semaine de 4 jours figure parmi les modalités de travail préférées des sondés. Tu préfères travailler 5 ou 4 jours ? 4. Pourtant, seulement 6% des personnes interrogées en bénéficient. La marge de manœuvre est donc importante. Certaines entreprises commencent à expérimenter la semaine de 4 jours, mais sur des cas particuliers. Certains profils ayant des contraintes familiales, par exemple, la plupart ne vont pas plus loin. Elles craignent le non-retour en arrière si elles font sauter ce tabou, avec un effet de contamination sur les populations moins diplômées ou les non-cadres. Alors, je donne la semaine de 4 jours à certains éléments que je veux absolument attirer, mais après, peut-être, il n'est pas impossible que les autres salariés de la boîte disaient nous aussi, on veut bien un week-end de 3 jours. En passant ces 1000 salariés aux 32 heures en 2021, il y a un exemple que vous connaissez peut-être. LDLC, l'entreprise informatique. En passant ces 1000 salariés aux 32 heures en 2021, l'entreprise informatique LDLC a fait grincer des dents. On nous accuse d'être une ONG, j'adore, de semer le chaos, car on montre que ce dispositif est également fonctionnel à la plus grande échelle. C'est le président de la boîte de matériel informatique qui dit ça. Fait à l'appui, le PDG justifie son choix. Avec le déploiement de la semaine de 4 jours, la boîte LDLC est passée de 500 millions à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires sans recrutement. Waouh ! Le taux de turnover a baissé, passant de 11% à 2,5%. Waouh ! Merci Geek Forever. Merci beaucoup. Du coup, Geek Forever, tu me conseilles Attends, il y a Geek Forever qui me conseille une amie streameuse. Il faut que je retourne ton historique parce que je vois pas. Ah, ok, j'ai vu.
Ok, j'ai vu. Ok, j'ai vu, j'ai noté. Excusez-moi, on parle du raid.
Docteur Kisscool, merci beaucoup pour le 14e mois. Voilà. Donc le taux de turnover a baissé en passant de 11 à 2,5%. Les candidatures spontanées pour la boîte, qui étaient quasiment inexistantes, explosent aujourd'hui. Waouh. Et puis il y a un encadré aussi qui explique que travailler moins, c'est se déplacer moins et c'est aussi polluer moins. Let's go la semaine de 4 jours. T'en pensez quoi? Ça convient pas forcément pour tous les jobs. Me dit A et Lila, Léa, si je suis pas là un jour, le taf va m'attendre pour le lendemain, donc journée impossible. Blacky Nounou, s'arrête avec tes blagues. Arrête. Merci Codis pour le 22e mois. Merci du soutien, c'est adorable. De rien, Geek Forever, c'est moi qui te remercie. Voilà, on le fait depuis chez nous. On le fait chez nous depuis 2015, me dit Splagada. La semaine de 4 jours, c'est une boîte de recherche privée. Ça nous a simplifié beaucoup de choses. Alors, très bon point de Alasta Carole. Attends, qu'est-ce qu'on entend par la semaine de 4 jours? Est-ce que c'est 4 jours, mais pour travailler le même nombre d'heures qu'avant? Donc là, tu as 4 journées de fou, quoi. Mais en fait, tu travailles le même nombre qu'avant. Ou est-ce que c'est 4 jours par semaine avec une réduction du temps de travail? Alasta nous dit, en Belgique aussi, on parle de la semaine de 4 jours, mais c'est un leurre car c'est pour travailler le même nombre d'heures par semaine. Hein, plus d'heures du lundi aujourd'hui pour compenser le fait qu'on ne travaille pas le vendredi. Alors attention, parce que la semaine de 4 jours, ça peut recouvrir deux situations extrêmement différentes. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a une réduction du temps de travail ou pas, quoi? Et Sarah Molly dit, mais moi même pour le même nombre d'heures, je suis chaud de fou, hein. Ok, intéressant, hein. 4 jours. Bon, bah, là je suis plutôt à cause de vous là, à cause de Twitch, je suis pas trop sur les 4 jours là. C'est vraiment de votre faute, ça. Allez, Fulgure au point, Astéorage, Corneau Fulgure, c'est parti, let's go. Goldorak, pourquoi? Il y a un documentaire qui est réalisé par deux Français sur Goldorak. Goldorak, c'était il y a 40 ans. Héros écolo et pacifiste des temps modernes. Les Français, c'est Jocelyn Mahaut et Victor Chevet qui ont réalisé un documentaire qui a l'air assez réussi sur l'humanité, sur le dessin animé phare des années 80, qui décrypte 45 ans après ses débuts à la télé française l'engouement suscité par le robot géant. Tiens, comment on dit le truc qu'il y a au début là? Générique. Un petit Goldorak. Oh, je l'ai trouvé. Magie de YouTube. Oh, le petit disco là, au début. Écoutez, juste le petit plaisir là. Allez, je vous mets les images. Parce que vous êtes sympa. Vous êtes prêts? Excusez-moi. Disco. Hop. Non, c'est pas celui que j'avais en tête, moi.
Oh, yes.
Tais-toi.
Yes, 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 yes.
Pas un autre, là? Non, c'est... Ah, c'est celui-là, le vrai.
Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps.
Quel kiff. Bah, c'est ça. C'est Noah qui chantait, je crois. Hein? Ah, les souvenirs. Ah. Goldorak, le grand. J'adore. Bon. Alors, pourquoi l'humanité nous en parle? Parce que donc, il y a un documentaire qui sort sur Goldorak. En 1978, donc j'avais 7 ans. Voilà. Part d'entre vous, vous n'étiez pas né. Bande de petites choses. Il n'existe que 3 chaînes de télé à l'époque. Et il y a peu d'émissions pour les enfants. On va faire un petit peu l'histoire. Le 3 juillet 78, Révolution, qui débarque sur Antenne 2 dans l'émission de Dorothée Récréa 2, Goldorak. Immense robot, donc, aux cornes dorées, hop, cornes aux fulgures, qui combat les méchants de Vega, les Golgoths. On est d'accord que c'était les Golgoths. C'est comme ça? Golgoth 13, Golgoth 22. C'est ça, c'est les Golgoths? Je ne me trompe pas, les Golgoths? Qui veut attaquer la planète Terre, à son bord Actarus, qui est le prince de Fort, qui a vu sa planète dévastée par Vega, justement, foiré, et qui va défendre la planète bleue, bec et ongles. Les Golgoths, ah les Golgoths. Les Golgoths 12, 27, 36, ils avaient des noms comme ça et tout. Et à chaque fois, ils étaient plus gros, et à chaque fois, ils avaient plus d'armes, et à chaque fois, et, Goldorak, il en mettait une misère, en fait. C'était super. Et avec Actarus, c'est tout un univers qui touche directement une génération d'enfants au cœur. Un Goldorak, c'était super fort, hein. Les cours de récréation bruissent de fulgures au point, de cornes aux fulgures, d'astéroaches. L'astéroache, c'est déchiré ça. Déchiré l'astéroache. Et les parents sont désorientés un petit peu devant, bah, c'est nouveau à l'époque, hein. Devant ces animations japonaises et cette violence supposée du programme. Il est sûr que Goldorak se situe à des années-lumière de L'île aux enfants et de Nicolas et Pimprenelle. Quoique, Jocelyn Mao et Victor Chevet, donc, se penchent sur le dessin animé dans ce documentaire. Le décortique et surtout analyse son écho sur la vie des enfants d'hier, devenus aujourd'hui adultes, avec en point d'orgue la participation exceptionnelle du créateur de l'animé Go Nagai, qui est toujours vivant. Quoi? Non. Il y a Il Monfic qui dit que Goldorak, c'est un Golgoth à la base, et que Actarus l'a volé à Vega. Quoi? Non. Actarus, c'était un Golgoth qu'Actarus a volé. Non, Goldorak, c'était un Gold. Non. Non! Comment vous savez ça? Comment vous savez ça, vous? Mais oui, c'est validé. Je ne savais pas ça. Comment vous savez ça? Comment ça, tout le monde le sait? Alors, les puristes, les spécialistes, info augmentée, distinguent. Non. C'est pas un Golgoth, c'est un Anterak. Les Golgoths n'ont pas de pilote. Donc, IA déjà à l'époque. Ah, c'est un Anterak. Enfin, c'est un genre de Golgoth, quoi. Mais piloté, quoi. Alors, pourquoi tourner sur soi-même avant de rentrer dans le cockpit? Relato, ça fait 40 ans que je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Génial. Ok. Fou. Je ne savais pas que c'était un Anterak. Ok. Qu'est-ce que raconte le documentaire? Eh ben, il bat en brèche les craintes des adultes des années 80. Goldorak raconte une universitaire qui s'appelle Sarah Atuel, prend les enfants au sérieux à l'époque. C'est vrai que ce dessin animé était fou, avec des enjeux de vie et de mort. Les créateurs du programme ont d'ailleurs puisé leur inspiration dans plusieurs cultures, de la mythologie à Shakespeare, en passant par le western et King Kong. Surtout, il est question dans Goldorak de valeurs humanistes. C'est vrai que c'était plutôt cool au niveau des valeurs, hein. L'amitié et l'écologie, on va en parler. À commencer par un pacifisme assumé, le professeur Procyon et Actarus détestent l'idée de la guerre. Ils s'y résolvent pour ne pas voir les terriens asservis. Actarus est aussi une sorte de migrant, d'exilé de l'espace, pour avoir une lecture politique de Goldorak, qui souffre de son déracinement, c'est vrai. L'identification des enfants à ce héros à la fois grave, solitaire et doux, c'est un beau gosse, hein, est totale. Comme toute une génération, j'étais construit par Goldorak, raconte le journaliste de TF1 Harry Roselmack, pour qui la prétendue violence du programme est un non-sujet, donc c'est désincarné et adapté à un public d'enfants Pardon, ce sont des robots qui se battent, donc cette violence est désincarnée et adaptée à un public d'enfants qui connaissent eux-mêmes des accès de violence où ils sont confrontés à l'école. C'est vrai que j'ai beaucoup regardé Goldorak et j'ai jamais eu envie de mettre un coup d'astéroïde dans la tête de quelqu'un à l'école, ou de corne au fulgure, ou de fulgure au poing. Peut-être à mon petit frère, peut-être, je sais plus, que j'embrasse, parce qu'on aimait bien faire des bastons de Goldorak. Alors, bon souvenir pour vous, Goldorak, ou bien ? Ah oui, Ken, le survivant, c'était beaucoup plus violent, je mérite. De fou, des bons souvenirs. De très bons souvenirs. J'ai adoré, mais oui, formidable, Goldorak. Toute mon enfance. Je connais pas Quantico. Mais là, il faut, c'est la base. Voilà. Kalindi était amoureuse d'Actarus. Trop jeune pour connaître Nelio. Mais c'est pas une question d'âge. C'est de la culture, ça. C'est de la culture. On est sur la connaissance, là. Hein? Comment ça, il y a beaucoup de vieux ici? Mais non, pas du tout. Horoscope. Bam. Pim. Vous l'avez pas vu venir. Capitaine Flamme, excellent. Je préférais Albator, moi. Vous l'avez pas vu. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour le 6 mois d'abonnement. Merci, Luco, pour le Prime. Merci beaucoup. Et l'horoscope. Qui a été le plus rapide? On rappelle aux nouveaux nouvelles ce jeu débile quand on est sur la page horoscope du Parisien. Le premier, je crois que c'est Poisson qui a gagné. Ouais. Le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat gagne le droit de se voir lire son horoscope. Ça n'a aucun sens, mais ça nous fait rire. Poisson, c'est René Fleur de Paix, P-A-X, un de mes pseudos préférés. Qui, merci Jean-Sébastien, qui a gagné, donc c'est Poisson. Eh bien, Poisson, vous n'aviez pas gagné depuis très longtemps. Alors dites merci à René Fleur de Paix. Poisson. Alors c'est bien beau de gagner, mais est-ce que l'horoscope est cool? Vos cœurs. Vos sautes d'humeur, ça commence pas très bien. Vos sautes d'humeur ne rendront pas la vie simple à votre entourage. Ok, vous êtes un peu des casse-couilles, les poissons là. Donc mettez un chill. Là, c'est l'heure du dîner en famille, là, on souffle. Comme ça, votre entourage pourra souffler aussi. Réussite, attendez-vous à des changements de programme dans le domaine professionnel. Ok. Ah, alors au niveau de la forme, c'est topissime. Bonne défense naturelle. C'est bon ça. Ok, c'est plutôt pas mal les poissons. C'est pas... Tiens, je lis mon horoscope juste pour le plaisir. Taureau, cœur, vous devez prendre d'importantes décisions familiales. Non, en vrai, tout va bien. Réussite, dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets. C'est bon, ça roule à peu près. Forme un peu de tension nerveuse. Non, tension nerveuse, non, pas du tout. Les amis, j'ai bien aimé ce petit stream de la fin de journée là, ce que j'ai baptisé, quel esprit inventif, la fin de journée Étienne, j'ai bien aimé. Entendu du bruit dans la cour, les gens, il y a des gens ont une vie, c'est fou. J'ai bien aimé, suspense. C'est fou ces gens heureux, là j'entends des gens heureux dans la cour, c'est fatigant ces gens qui ont du bonheur, c'est fatigant. Suspense, est-ce que je vais trouver la force, l'énergie de streamer après question pour un champion, parce que je reprends les enregistrements demain. Est-ce que je vais réussir, sachant qu'au pire on se retrouve vendredi soir pour l'hebdo Étienne, hein, on est mardi donc mercredi dans 3 jours. Est-ce que je vais réussir à streamer? Attends, il y a quelqu'un qui vient de me rapporter un truc important. Oh putain, mais demain soir je vais pas streamer. Demain c'est le 30. Demain, c'est l'anniversaire de Malo. Demain, c'est l'anniversaire de mon grand, demain soir. Merci, Tidrao, pour le gentil message. Et pour le sub. 25 mois d'abonnement. On est au max. Putain, les gens qui sont à 25, c'est énorme. Demain, c'est l'anniversaire de Malo. C'est la date, c'est la vraie date. Donc, ouais, je pense que demain soir, il n'y a pas de stream pour le coup. Normalement, petite priorité. En tout cas, merci, je me suis régalé vraiment. Bon, on va pas se quitter comme ça. On va se faire un petit poutou. Et surtout, on va faire un petit raid. Voilà. Alors, tout à l'heure, bougez pas. Quelqu'un m'a proposé. Je vais voir si la personne est toujours en live. Est-ce que j'ai toujours. C'est bon. Je vais voir. Quelqu'un m'a fait une propale. Je vais aller voir parce que c'est une responsabilité de vous envoyer quelqu'un. Donc, vous envoyez sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je vais aller voir. Je vous mets 2 minutes de musique et on fait un petit raid tous ensemble. D'accord? Je vous remets la musique qu'on avait commencé à écouter là. 2 minutes de musique. Ça va bien ça. Et après, on raid tous ensemble. Voilà. petit moment de raid chill tranquille. Ok, à tout de suite, bande de belles personnes. Alors, où est-ce qu'on est? Je sais plus où j'habite. Je sais plus où j'habite. Voilà. Allez, à tout de suite, c'est parti. Presque. Dès que je retrouve mes doigts. Voilà. Je baisse un peu. Et on prépare le raid. À tout de suite. On raid dans 30 secondes. Et on raid dans 15 secondes. Bande de belles personnes, on a chargé le raid qui m'a été proposé tout à l'heure et avec un joli clin d'œil. C'est quoi le message de raid? Bonsoir. Tu dis bonsoir de Papy Sam, c'est le message de raid. Passez une belle soirée. Je comptais être là demain soir et puis je viens de me rappeler qu'il y a un anniversaire important dans ma famille, donc peut-être pas demain soir. En tout cas, merci pour ce doux moment de fin de journée. Là, c'était cool. C'est cool aussi de parler d'actualité en fin d'après-midi comme ça. Je le referai. Voilà, merci pour tout. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée si vous êtes concernés, une bonne recherche de logement étudiant si vous êtes concernés. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Je lance le raid et je vous retrouve pas demain soir, mais peut-être jeudi soir et sûrement vendredi soir, je vous le rappelle. Merci Charlie Belfort, notamment avec Monsieur Poulpe, Jean Massier, qui on a encore, Manon Mella et Arnaud de sa mère. Allez, c'est parti pour le raid. Je vous dis à très vite. Merci pour tout. Ciao, ciao.